Welcome to the show. Six and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the best
in hip hop.
DJ, turn it up.
Welcome to the show, Six and Daz, le numéro 3.
Techniquement, oui. Enfin,
non, techniquement, justement. Techniquement le quatrième, si vous aimez les pilotes avec du souffle. Alors, Six,
ouais.
Qu'est-ce qu'on veut dire à nos auditeurs?
Merci, déjà, merci de te,
merci. Bah,
des retours.
Non pas ça, merci pour l'argent, car nous faisons toujours ça gratuitement.
Exact.
Mais merci pour le love.
Voilà.
Merci
c'est vrai,
pour
c'est
l'amour.
Non, on apprécie beaucoup chaque message.
C'est important parce que comme on fait une spéciale LL Cool J, c'est vachement important d'avoir de l'amour.
Love.
I need love. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout une spéciale LL Cool J. Donc oui, merci pour les feedbacks depuis la dernière fois. Ça nous
fait chaud au cœur,
ça nous fait très très plaisir. Et puis, là, Six, il l'avait prévenu. Hein, si vous avez écouté l'épisode précédent jusqu'au bout, il avait évoqué l'artiste qu'on aborderait aujourd'hui. Alors, qui est-il? Qui est-il? Attention, Ghislain. Alors vas-y, annonce encore un nom en trois consonnes, j'en peux plus.
Bah, vous aurez reconnu, DMX.
Voilà.
L'homme-chien, comme on disait, le chien-garou.
Chien-garou, l'homme-pitbull. Voilà.
Et une étoile filante du rap, parce que dans quelques années, entre 4 et 5 ans...
Attention, parce qu'étoile filante, ça sous-entend que ça s'est éteint rapidement.
Ça s'est éteint, c'est rapidement.
Or, il est quand même arrivé vite.
Il est arrivé vite, oui, voilà.
Il a monté fort.
Fort. Et après, il est descendu un peu plus lentement.
Donc, ça serait plutôt quoi, un truc qui arrive vite, qui monte fort et après qui déçoit, mais en douceur. Emmanuel Macron, ouais. Par exemple. Oh non, on avait dit pas de politique. Alors, vas-y, dis-moi Six. On en a déjà. Dis-moi, Six, que faut-il savoir de DMX?
Déjà, ce qu'on l'a dit, c'est succès colossal. C'est 30 millions d'albums vendus sur 30 millions d'albums sur 5 albums. C'est des chiffres complètement hallucinants.
30 millions sur 5
hallucinant.
Albums.
C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont dignes de superstars, qui sont dignes des Rolling Stones à l'époque, qui sont dignes vraiment de mégastars. Et donc, on va revenir un peu en arrière. Parce que déjà, DMX, pourquoi DMX? D'où ça vient ces trois lettres? Ben, ça vient pour le Dark Man X. Alors, l'homme sombre, déjà, était très.
Mais le
très
X. Ténébreux.
Mais le X, voilà. Certaines personnes disent que c'était à l'époque, donc il y avait une machine qui s'appelait la Oberheim DMX, donc dans les années 80.
Il y avait la Reebok DMX aussi, mais je suis pas sûr que.
Non, pas sûr. Mais quoique, tu sais. Et qu'il aurait, lui, été fan, parce qu'il a commencé par le Beatbox DMX.
Ah donc,
voilà. Et qu'il aurait été fan de cette machine et qu'il s'aimait à l'écouter, tu vois, et à reproduire les sons de cette machine. Et donc il aurait pris le DMX et puis on aurait fait, tu sais, un Darkman X et il aurait gardé
un rétronyme.
Voilà, c'est assez obscur, hein. C'est assez obscur.
Donc c'est obscur comme son quartier,
voilà,
parce
exactement.
Qu'il vient d'où lui?
Bah lui, alors il vient déjà le nord de New York, New York City, le Bronx, c'est déjà loin.
Ouais.
Mais eux sont encore derrière, c'est les Yonkers.
Aïe.
Et là, c'est pour l'avoir fait 2-3 fois, c'est vraiment le bout du monde. Hein.
C'est encore plus loin que Jamaica Queens.
C'est encore plus loin que la ligne 7.
Et tous ces trucs-là. C'est la ligne 8, la pire.
Ouais. Et alors, c'est vraiment, c'est vraiment interminable. Donc, t'arrives dans un quartier qui est derrière New York City, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie même pas des infrastructures de New York City, tu vois. C'est encore plus ghetto, Et donc, tu comprends que c'est encore plus communautaire, c'est encore plus, c'est vraiment, moi,
c'est sombre, en fait.
Là, c'est sombre, c'est vraiment sombre. J'avais fait une réunion sur un parking, une réunion de quartier le soir, où ils viennent tous freestyler. Dans un parking énorme, tu vois, et puis t'avais D-Block, t'avais Jay Hood, t'avais Check. D'ailleurs, on peut le retrouver dans le DVD Get Large, qui est un album, où on voit ça, on l'a filmé. On est dans le parking, dans les Yonkers, et chacun vient freestyler, donc t'as les connus, t'as les pas connus, et puis ça enchaîne comme ça. Il y a une vraie communauté, un vrai sens du. On est tous du même quartier, mais on est tellement loin qu'on est solidaires entre nous, quoi.
C'est-à-dire que, parce que dans l'histoire des Five Boroughs de New York, donc des cinq quartiers, ceux qui étaient un peu le quartier satellite, c'était Staten Island, c'était le Wu-Tang,
qui s'appelait Shaolin. T'es obligé de prendre un bateau pour aller là-bas.
Déjà, fallait prendre un ferry. Donc, en fait, eux, ils avaient déjà vraiment l'impression d'être des cinq quartiers, le quartier mis à part. Mais alors là, Yonkers, on est même plus dans New York, en fait.
Parce qu'encore une fois, ils bénéficient même pas des infrastructures de New York City, tu vois, qui donnent de l'argent pour développer ces quartiers. Eux-mêmes pas.
Mais ils sont dans l'état, c'est quand même
l'état de New York, voilà, exactement.
Ok. Ah bah donc, putain, ça annonce du lourd. Alors, il arrive quand, lui? En 70.
Il est né en 70, donc c'est le plus ancien de tout ce qu'on a traité, tu vois.
Pour l'instant, 70, ouais.
On va dire qu'il a aujourd'hui la bonne cinquantaine, hein, ou la penche.
49.
Ouais, 49, oui. Bon, 49. Il aura ses 50 ans, ouais.
Ah bah putain.
Une grosse soirée de qualité, en perspective. Et donc voilà. Et alors. On a parlé de Bleak, on a parlé de 50, on a parlé de T.I.
Il y avait quand même un dénominateur commun sur ces trois artistes.
C'était la DAS.
C'était l'enfance de merde, ouais. Donc j'imagine que, parlant d'un mec qui est né dans le Yonkers...
Bah lui, en fait, il bat encore tous les records parce que... Donc, il est une enfance difficile, sa mère le bat, c'est un enfant battu, tu vois. Son père, il l'a pas connu, il l'a abandonné.
Normal, ça c'est classique.
Là, voilà. Et il est surtout en plus très gravement malade, il est asthmatique. Donc il fait des séjours à l'hôpital. Donc jusque-là, tu vois, il est en train de battre tous les records. Le pauvre, il est vraiment dans un sale état quand il commence. Mais il comme on l'a expliqué, sa passion dans le hip-hop, parce que quand on remet justement sa discipline, le hip-hop, enfin, le hip-hop à l'époque, nous, on parle aujourd'hui du rap, on parle, tu sais, un peu de graph, mais à l'époque, il y avait vraiment cet aspect où il y avait toutes
les disciplines, voilà,
le beatbox, le tag, le graph,
le DJing,
la danse, tu vois. C'était quelque chose qui était, chaque discipline avait son importance. Aujourd'hui, le rap a tout dominé. Tu vois, quand on parle hip-hop, c'est presque un synonyme de rap, tu vois. Le rap égale hip-hop.
Ouais, on a limité juste à la partie locale.
Alors qu'à l'époque, à ce moment-là, c'était vraiment très, tu pouvais choisir ta discipline, tu vois, et tu faisais de la danse, c'était aussi bien coté. Et reconnu que quelqu'un
DJ qui
du rap,
ou,
voilà, exactement.
Ou un graffeur,
voilà.
Ouais.
Et lui, il avait choisi le beatbox, tu vois. C'est une discipline assez. On n'entend plus trop parler actuellement. Il y a quelques noms célèbres encore.
Ouais, bah nous en France, on a Razel.
Hein, oui, bien sûr.
Ouais. Non, c'est pas en France d'ailleurs, je dis.
Non, Razel, c'est
non, c'est Sly, de la Soul. Ouais. En France, on a Sly, du Saiyan Super Crew.
Eh oui.
Et Leroy Kezia, du Saiyan Super Crew. Et en fait, c'est les seuls auxquels je pense.
Il y en a deux ou trois autres, mais j'ai pas les noms d'ailleurs, je m'en excuse.
Le mec qui fait toutes les imitations là.
Oui.
Eclipse. Celui qui imite Booba et tout.
Il fait super Busta Rhyme, il fait super bien, c'est ça, ouais, très fort. Bah, Leroy Big Up, on dira son nom la semaine prochaine. Et oui, donc voilà, donc ce jeune DMX à l'époque, donc a choisi de faire le beatbox. Et l'amour, il a une passion, tu vois, comme bon, chez lui, il est battu par ses parents, enfin surtout sa mère, donc uniquement même. C'est qu'il a retrouvé l'amour auprès de ses chiens.
Attention quand même avec cette phrase, trouver l'amour auprès de ses chiens, parce
voilà,
que
c'est vrai.
Les auditeurs sont facilement impressionnables et ils peuvent s'imaginer des trucs. On va rester sur du factuel.
Oui, voilà. En fait, ce sera un anglicisme, tu vois, parce qu'en anglais, on dirait love, tu sais, alors que c'est l'amour, mais c'est pas tout à fait l'amour.
Oui, non, mais l'amour, l'amour fraternel.
Voilà, exactement, hein. C'est ça. Voilà. C'est un amour fraternel. Et donc, l'histoire veut qu'il soit vraiment très proche des chiens qui traînent dans la rue. Et Laurie, d'ailleurs, a un chien préféré, un pitbull. Et à 9 ans, la police l'aurait abattu, ce chien. Donc ça peut expliquer un peu tous les traumatismes après.
Il était déjà pas bien d'équerre, il trouve un ami et la police le bute. Je pense que ça tenait sur une certaine trajectoire.
Exactement, tu vois. Et donc à partir de là, il va faire classique aussi des allers-retours pour quand vous, c'est le braquage. Sa spécialité, c'est le braquage.
D'accord.
Oui. Et en prison, il va rencontrer quelqu'un qui est assez connu à l'époque, qui est K-Solo du Hit Squad.
Ah bah oui.
Donc le Hit Squad,
oui.
Qui à l'époque c'était vraiment un carton, c'était Das FX, PMD, Redman, c'est vraiment...
C'est le Hit Squad quoi.
Voilà, c'est le Hit Squad, voilà. Et on en parlera peut-être un de ces quatre. Et donc K-Solo l'entend, il croit en lui, il le pousse à continuer dans cette voie. Il lui dit, écoute, vraiment, non, t'as un talent, t'as un grain de voix, vraiment.
C'est-à-dire que...
K-Solo est en prison, il se rend compte en prison,
ah,
K-Solo
d'accord.
Et DMX.
Parce que je voyais pas comment K-Solo pouvait entendre un mec du Yonkers, fan de chien.
Il se rend compte en prison.
Voilà, tu vois, au lieu de toutes les interactions sociales, on le dit ça. C'est pour ça que tu vois là, Patrick Balkany, il vient de rentrer. À mon avis, il sort un album à sa sortie, normal.
Et donc ça va l'aider parce qu'il va prendre confiance en lui, il en a besoin, tu vois, tout ça. Et en 91, avec sa démo tape, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore les mixtapes. On avait les démo tapes, c'est-à-dire qu'on faisait pas de mixtape, on faisait une cassette démo.
Une démo que t'envoyais un peu
à droite
partout,
à gauche, au directeur artistique, tout ça. Et il va être Unsigned Hype dans The Source.
Ah, alors ça faut expliquer. Voilà. Unsigned Hype, en fait, c'est donc The Source, c'était un magazine, c'était le magazine de référence à l'époque avec Vibe de hip-hop que on achetait par exemple à la librairie américaine Brentanos à Paris ou au Virgin Megastore des Champs-Élysées et ou alors à la Fnac du Louvre aussi. Bon bref, et en fait dans ce Magazine, il y avait une rubrique qui s'appelait Unsigned Hype. Donc c'est le rappeur qui fait tourner les têtes, mais qui est pas encore signé.
Exactement.
Et dans cette rubrique, il y a eu Biggie Smalls, il y a eu tous les mecs qui ont percé sont d'abord passés dans cette rubrique.
Ah, ça a aidé. Alors je sais pas si c'est le fait d'être dans Unsigned Hype qui a aidé à signer ou l'inverse.
Je pense que si, ouais, ça devait jouer.
C'était quelque chose d'énorme. Unsigned Hype dans The Source, ça te mettait déjà ta carrière.
Moi, je me rappelle que tous ceux que j'ai vus dans les Unsigned Hype, à de très rares exceptions, parce que les mecs se sont peut-être fait plomber, en général, ils ont fini par être connus tout court, en fait.
Et après, ils ont fait une rubrique, ça se rappelle Lost. Voilà, il fallait pas être dedans.
Donc, il est futuré dans The Source en Unsigned Hype.
Exactement.
Comment donc, en 91,
ça remonte, hein. Tu vois, ça fait déjà il y a un bon bout de temps. Et là, il va signer chez Rough House Records. Alors, Rough House Records, à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'énorme.
Il y a les Fugees. Je me rappelle pas du tout.
Ouais, c'était les Fugees.
Ah, mais je détestais les Fugees. Oui, je n'aime pas le rap. Je ne sais pas ce que je fous dans cette émission.
Il y a aussi Cypress Hill.
Je détestais Cypress Hill. J'ai tout fait pour pas les mettre dans Californie tellement je les hais. Ah ouais, je les déteste. Bref.
Et donc voilà, donc, gros label à l'époque. Hein, c'est vraiment un label dominant. Et il arrive à signer chez eux, je pense, donc, notamment grâce à l'article de The Source. Et donc, il signe chez eux. Et il va signer. Chez Rough House Records, qui est donc chez Columbia. Nos amis de Columbia, dont on a parlé.
Columbia, Sony, donc la maison mère.
Et il va sortir le premier single.
Alors attends, on avait parlé de Columbia pour 50. Ouais, c'est eux qui avaient signé 50, qui l'avaient droppé.
Et ouais, c'était Arista, après je crois T.I. qui avait droppé.
Arista, c'était T.I., ouais, mais Columbia, c'était 50.
Et on va voir, il y a même la même histoire.
Alors du coup, ouais, il sort un truc chez eux.
Oui, premier single.
Ah, on sent, hein.
Boom bap.
Ah ouais, là, c'est. Ah, même au niveau du placement. Très fort.
Très bon,
il rappe comme, comme Mr. Malik de Illégal, tu vois, mais avec une voix moins aiguë. Mais non, c'est le même flow.
Oui. Mais alors, on entend un petit peu le DMX, tu vois, qui va arriver.
Mais il la voit pas encore.
Non, pas du tout. Tu sais, il la voit beaucoup moins rock. Mais il est percutant. Tu sens qu'il a envie de croquer quand même. Tu vois, il a envie de croquer. Alors, malheureusement pour lui.
Ça flop. Ah bah.
Ça flop. Et puis, Columbia.
Columbia drop.
Et drop.
Et Columbia, franchement, à chaque fois, hein, toujours dans les bons coups. Donc, les mecs, ils signent des gars pas connus. Et puis, bah, ça marche pas. Normal, ils sont pas connus. Ah ouais, mais désolé, ça a pas marché. Donc, tu dégages. C'est un peu con quand même comme système.
C'est un peu con parce que souvent, derrière, après, nous, on retient toujours l'histoire des mecs qui va sortir le deuxième, qui va cartonner. Donc, après, on va.
Peut-être en fait qu'il y a plein de mecs que Columbia a droppés qui sont morts et enterrés dans le caniveau.
Et puis, ça tombe, si on était avec le DA de Columbia à l'époque, dire ah, moi, j'ai signé lui. Bon. En tout cas, voilà.
Donc là, il est Columbia le lâche.
Columbia le lâche.
Et du là, coup, il n'y a même pas d'album, en fait.
Non, il n'y a pas d'album. C'est un maxi que j'ai d'ailleurs chez moi. Un maxi qui va flopper. Et là, il va faire une rencontre importante. Il va faire une rencontre de deux frères qui ont marqué l'histoire du rap. C'est Wa et Dean, dont les frères Dean, du Rough Riders. Rough Riders Management ou Rough Riders Entertainment, il y a plein de.
Rough Riders.
Et là, les Rough Riders, c'est important d'en parler. Parce que les Rough Riders. C'était une communauté donc de blagues de New York, biker. Ce qui à l'époque faut mettre dans le contexte le biking
américain blanc, normalement c'est un blanc en Harley Davidson.
Voilà, avec une grosse barbe, tu sais, en cuir, tu vois.
Et genre ZZ Top ou Hells Angels.
Exactement. Et eux, ça a été les premiers à faire
un crew de motards noirs.
Et donc pour challenger. Justement, je pense que les bikers blancs, ils étaient eux en japonaise.
Ouais,
tu vois,
donc ils roulaient qu'en moto de sport.
Exactement, tu vois.
Donc là, on a déjà l'imagerie, tu vois, qui se met en place. Voilà. Les mecs du ghetto sur des Kawasaki et des Suzuki.
Et c'est impressionnant pour moi, pour les avoir vus une fois à Times Square défiler. Donc ils descendaient sur Times Square, je sais pas, c'est pour une centaine de personnes. Hein. C'était impressionnant. Tu les vois tous débarquer. Alors, bandana, lunettes de soleil.
Ouais. Cuir, là, on est dans un clip.
Tournait, ça faisait de la fumée.
Ça faisait des beurres.
C'était un de mes premiers chocs à New York. C'est marrant, impressionnant.
Parce que donc ça, les Rough Riders, c'était des vrais riders.
C'était des riders.
Histoire de dire on a un joli nom qui claque.
Non, c'était vraiment ça. Il y avait une vraie passion de ça. Puis le merchandising cartonné. Hein. Ils vendaient des t-shirts avant que les gens connaissent même qu'est-ce que c'était Rough Riders. Toi. Le double R, les vestes en cuir,
moi,
le grand jean.
J'avoue, j'ai un t-shirt Rough Riders. Il est bleu turquoise. Je pense que je l'ai acheté au marché du ghetto de je sais pas où, tu vois, parce que je pense pas que ça soit un truc officiel, mais je le portais avec fierté à une époque.
Oui, bien sûr.
Pendant
bien
au moins
sûr.
Deux ou trois mois.
Ouais. Voilà. Et donc là, pour lui, c'est un bon move. C'est un bon move parce que donc les refrains sont super connectés. Avec pas mal d'MC, donc ils vont le placer à droite à gauche, ils vont le placer sur Mike Geronimo, le Time to Build avec Jay-Z, un morceau qui a vraiment pas mal tourné à l'époque, un John Jay-Z, d'ailleurs on mettra le morceau en playlist, Jay-Z rappe fougueusement, il va faire aller le coup de Jay, Maze, mais surtout un titre qui va sortir donc en 98.
Ah bah oui. Ah, Lil Kim. Là, voix. Là, c'est DMX.
Là, c'est DMX.
Avec l'aboiement au début et tout. Ouais.
Alors, moi, quand on a préparé l'émission, quand j'ai vu ce titre 98, ça m'a fait bizarre. Franchement, parce que pour moi, c'est un tube qui est intemporel.
Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des trucs qui. Ouais. C'est comme 99 Problems, des morceaux comme ça va pas donner.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est super moderne, ce titre, la production.
Le sample, je sais plus ce que c'est.
Moi non plus.
Ce que je sais, c'est que je suis tombé au hasard d'une écoute sur l'original, en fait. Ouais. J'étais en train de slammer dans mon salon. Parce que j'étais là, je suis. Mais attends! Pour le coup, ils se sont pas fait chier. Une microseconde. Ah oui. Ils ont pris le truc original. C'était les mêmes cuts, hein. Je veux dire, ils ont juste rajouté des aboiements, tu vois, mais le son, c'est le même. Ouais. Je suis, les bâtards! Je sais plus ce que c'est. Faudrait que je le retrouve. Ouais.
Alors, ça, énorme carton.
Donc, ça, Money Power Respect. Alors, attends, parce que il sort en 93, il se fait dropper par son label.
Oui.
Et ce truc-là, Money Power Respect, avec les Lox et Lil Kim.
Donc, ça met du temps, hein, tu vois. Et ça,
ouais, c'est 98.
Voilà, entre temps, comme je t'ai dit, il va faire quelques titres à droite à gauche.
Ouais, mais 5 ans de. Il a chargé sa super pendant 5 ans, le mec.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand il est arrivé avec des gros chiffres. Ouais. Et donc, ça, c'est sur l'album de The Lox.
Ouais.
Qui était en management chez Rough Riders, dont tout s'explique en fait. Et ils étaient donc à l'époque chez Bad Boys de Puff Daddy.
Ouais, parce que pour moi, The Lox, c'était le groupe qui chialait quand Biggie s'est fait dessouder. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'était après la mort de Biggie, ça.
Oui, après la mort de Biggie. Ouais, ouais, exactement. C'est donc ce titre sort et là énorme carton, vraiment énorme carton. Puis là DMX fait vraiment la différence sur ce titre. Il est vraiment
il est super
présent. Il fait un gros couplet. Et donc grâce à ça, bah, ça va lui permettre de signer chez le label de l'époque, le label numéro 1, Def Jam. Qui est vraiment bon. Alors Def Jam, on peut en parler parce que je sais pas trop s'il y a encore d'actualité actuellement Def Jam, si le label existe encore chez Universal.
Je pense que si, mais faut à vérifier.
Ouais.
Mais c'est un gros label.
Gros label. C'est le label. Surtout encore, si on remet dans le contexte à l'époque 2000, dans les années 2000. Def Jam, c'était énorme. C'était tellement énorme que quand t'allais.
C'est des jeux vidéo même.
Ouais, c'était tout. Il y avait tout. Et que dans le building, t'allais dans quel building Universal? Et eux, ils étaient dans un autre building, tu vois, où il y avait Def Jam. C'était Island Records et Def Jam. Ils étaient ensemble. Et c'était énorme. C'était sur 3-4 étages aussi. T'avais une activité. En France, ce serait Universal complet, quoi.
Def Jam, c'est bien le label qui a été fondé par Russell.
Oui, c'est ça. Et donc là, il va sortir son. Fraîchement signé chez Def Jam, il va sortir son premier album avec le tube.
Ah, bah oui. Quel prod dépouillax au possible. Alors attends, je sais pas si on a donné le nom de l'album. Comment s'appelle le premier album de DMX? Parce que ça, c'est donc le Rough Rider Anthem, c'est le single.
L'album s'appelle It's Dark and Hell is Hot.
Ouais.
Tout un programme. Hein.
Oui, bah oui, là.
Donc, votre avis, c'est donc, vous l'aurez compris, il fait sombre et puis l'enfer, c'est chaud.
Et l'eau, ça mouille.
On en parlera tout à l'heure, certainement, quand on va expliquer pourquoi DMX ça marche. pourquoi ouais, ça a ouais, marché ouais, autant.
Pour l'image voilà. Et tout, on en parlera.
Et mais donc, cet album sort et c'est un cataclysme. Franchement, c'est un cataclysme. On notera d'ailleurs peut-être le premier tube de Swiss Beats aussi, un des, qui était le neveu des frères Dean. Donc, il a d'ailleurs son nom de famille, c'est Dean aussi, Swiss Beats.
Kassim Dean, ouais. Ouais donc, ouais. Swiss Beats, hein, on rappelle, c'est le mec qui te fait des prods où t'as l'impression d'être enfermé dans un flipper. Hein. On en a parlé avec Thierry.
Avec tout le monde.
On en a parlé avec Fifty aussi.
Et avec Fifty Blick aussi.
Et avec Blick. Donc, en fait, c'est le producteur attitré de Rough Rider. Ouais. Et c'est aussi le mari d'Alicia Keys, mais bon, ça.
Voilà, exactement.
Comme quoi, il a vraiment pas tout raté dans sa vie.
Et donc, ce morceau-là va faire un carton énorme et l'album va, mais surperformer. Et quand on dit surperformer, c'est-à-dire c'est des chiffres, c'est 4 millions de ventes aux États-Unis pour un album de rap, un album d'hip-hop. C'est, je pense que c'est jamais entendu.
4 millions de ventes, 4 millions pour, de ventes un ouais. premier album,
pour un premier album.
Sachant voilà. que le mec, en plus, avant, c'est ouais. pas genre, il avait des albums qui avaient ouais. leaké, qui avaient ah, été shelfés et tout. Ouais. Non, c'est le mec, il avait ouais. un single qui a ouais. flopé. Et des featuring.
Ah ouais.
Il sort un album
ouais.
4 millions.
Ah ouais. Et en plus, il a été patient, parce que quand ça marche, ça sort donc en quelle année? En 98. Il avait déjà 28 ans, tu vois. Donc son premier succès à 28 ans aux États-Unis.
4 millions de disques, premier album à 28 ouais. ans, t'as une imagerie qui est complètement en décalage ouais. par rapport à ce qui se fait.
Ouais. C'est une belle performance ouais, de ouais, Rough ouais. Riders.
Carrément.
Qui ont cru, qui l'ont amené, qui ont construit le personnage. Et de lui, qui est unique. Je veux dire, c'est aussi pour, c'est la raison
il a une vraie personnalité.
Il a une vraie personnalité. Ouais. Physique, voix, timbre, la façon de poser, c'était toujours des
saccades. J'ai partagé justement sur Twitter une photo que je trouve incroyable. Oui, c'était justement la photo qu'ils utilisaient dans The Source pour faire la pub pour DMX. Ouais. Où ouais. tu le vois justement dans ouais. Yonkers avec sa combinaison de pêcheur et ses deux pitbulls en laisse. La photo, ouais. elle est mais incroyable, ouais, incroyable. En fait. Et, ouais. J'ai vu ce truc-là dans The Source. J'avais même pas entendu ouais. le morceau. Je fais, oh,
ouais.
oh, ça a l'air lourd. Ouais. Tu vois, comme quoi, ouais, ouais, l'imagerie, c'est ouais. super important dans le hip-hop.
Super important. Et lui, ça va l'aider de dingue, tu vois. Donc, ah ben, carton, 4 millions de ventes. Et la même année, c'est-à-dire qu'ils vont pas attendre. Ils vont pas dire, bon, on prend le temps, 2-3 ans, on va,
Ils
font un deuxième album qui va sortir avant la fin de l'année, c'est-à-dire au 10 mois après. Deuxième album qui va sortir, qui s'appelle cette fois-ci Flesh on My Flesh, Blood. Of my blood, alors, putain, flesh of my flesh. My flesh et blood, blood of my blood. Ain't no other cats got love for me. Ain't no cats gonna bust love for me. Ain't no cats gonna shed blood for me. But my dog is gonna be a thug for me. Ain't no other cats got love for me. Ain't no cats gonna bust love for me. Ain't no cats gonna shed blood for me. But my dog is gonna be a thug for me. If I'm gonna rob, I'm gonna rob all night. Là, il laisse même pas le temps au gâteau de refroidir. Non,
on est d'accord.
Et je pense que ça a d'ailleurs été trop vite, trop rapide. L'album est beaucoup
moins bien.
Je crois
que les mecs, ils ont vu 4 millions, ils ont dit obligé, on capitalise.
Ah bah bien sûr.
Ah bah oui.
Et complètement. L'album est pour moi beaucoup, beaucoup moins bien que le premier. Qui le premier vers un classique. Dans le style, c'est le premier, c'est un classique. C'est juste, t'as l'impression que tout est phase B, quoi. Tout est, tu vois, tout ouais. est moins bien. C'est tout. Il y a tout en moins bien. Même la pochette,
au niveau de la DA, on peut pas nier une certaine recherche artistique.
Ouais, ouais.
Hein, donc c'est des mix qui est en fait dans une baignoire remplie de sang.
Et c'est pour les notes, c'est du vrai sang. Et quand ils ont fait la photo, c'est du vrai sang. Ils se sont recouverts vraiment de sang.
Mais de sang de qui enfin?
De sang de je sais pas, de chien, je pense. Non, de chat plutôt. Ça
non, tu crois vraiment que c'est
non, c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est
moi, ce que moi, je suis rappeur, j'ai beau être asthmatique du Yonkers. Tu me plonges pas dans une baignoire de sang de je sais pas qui.
Mais DMX, lui, je pense même que c'est lui qui a eu l'idée.
Flesh of my flesh, blood of my blood, hein, chair de ma chair, sang de mon sang.
Pochette qui fait très Marilyn Manson dans le style.
Ah, bah là, ouais. Bah, déjà, le lettrage DMX, tu vois, c'est un truc un peu agressif. Ouais. C'est métal. Groupe de métal, quoi. Mais. Ok, donc ça. Et alors, par contre, ça, c'est un. Après 4 millions, de toute façon, tu peux difficilement
faire mieux. Oui. Surtout
tu peux faire moins bien, mais alors est-ce qu'il fait beaucoup moins? Ah non, ok, bon, ça va.
Il fait 3 millions. Il fait 3 millions.
Putain, les mecs, ils ont vendu 7 millions d'albums en un an.
Non, t'imagines, là. C'est hallucinant, c'est incroyable. Donc, ça le met dans une position, tu vois, mais de superstar. C'est, tout le monde va vouloir, il va être courtisé de tous les côtés, notamment par le cinéma. Qui va trouver qu'il a une belle gueule, qu'il a une personnalité, et il va faire un film qui a pas eu un succès commercial énorme, mais qui a eu un succès critique de ouf, avec Hype Williams. Alors, Hype Williams.
Le faiseur de clips.
Voilà. À l'époque, c'était des clips à $1 million. Il te disait, tu veux un clip de moi, $5 million. Il te faisait un film, quoi.
Ouais, avec, oui. En fait, oui.
C'était
quoi son trademark? C'était les bandes. tu sais, normalement, sur, ça, sur un écran, t'as les bandes noires, et lui, en fait, il animait, enfin, il mettait une image dans les bandes. Ouais,
exactement, c'est ça.
Au-dessus et en dessous de l'image.
Il a fait ça, puis des effets d'ombre lumière, je pense que c'était.
Non, c'était bling-bling, mais c'était efficace.
C'était chiadé, c'était beau. Et donc, il va sortir un film qui s'appelle Belly.
Ah, et toi, tu trouves que ça, c'est un bon film?
Non, c'est pas un bon film. C'est un film qui a fait parler.
Ah oui.
Moi, Belly, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait. C'est poussif.
Bah, le problème, c'est que Belly en France, il a été doublé. Et ça, je pense que c'est la pire idée qu'on puisse trouver. Parce que c'est Nas et DMX dans le film.
Oui.
Et ça a été doublé par Oxmo Puccino et Joey Starr.
Ouais.
Et ça, les gars, faut pas faire ça.
Ouais.
Faut pas mettre des rappeurs français pour doubler des acteurs, enfin des rappeurs américains.
Fallait prendre
des acteurs normaux
sous-titrer.
Parce que moi, du coup, j'ai été trigger pendant tout le film par Joey Starr. C'était pas possible. En fait, je voyais Nas qui parlait. Alors, je pense que Joey Starr, du coup, il devait faire DMX.
Ah oui, certainement.
Mais ça veut dire que c'est Oxmo Puccino et faut se rappeler de la carrière de Oxmo Puccino à l'époque en 98. Hein, donc c'est Opéra Puccino quand même.
Mensongère.
Voilà. Et le mec, il double Nas, qui est juste en termes de carrure qui est beaucoup plus fin, donc la voix en fait aucune des deux voix collées avec les mecs à l'écran, c'était n'importe quoi.
Puis surtout si tu vois des mix puis tu entends la voix de Joey Starr,
ça m'a complètement sorti du film.
Et donc en fait ce film, donc si vous avez l'occasion de le voir maintenant, de l'être sur YouTube, il est intéressant parce qu'il marque vraiment le style visuel de l'époque, et c'est en fait une sorte de clip long métrage d'une heure. Et ça va vraiment le propulser à la lumière de... C'est un film qui aurait un succès critique dans les bons milieux. Il sera de bon ton de dire que le Belly est super bien filmé, super bien.
Putain, vraiment. Je croyais que c'était un nanar, mais...
Ouais, mais à l'époque... Quand
mais c'est vrai que les seuls souvenirs, tu me dis Belly, je vois Nas et DMX dans la pénombre, en fait. Je crois que tout le film se passe de nuit.
C'est exactement ça.
Avec des lumières rouges.
En fait, c'est un clip d'une heure, tu vois, avec une histoire, une histoire de gangster, forcément. Et donc il va faire ça, et ça va l'aider encore à se développer au niveau de l'image. Et il va faire une grosse tournée, une des premières super tournées, même avant les tournées chroniques comme on a parlé la dernière fois.
Up in Smoke Tour.
Voilà, qui va s'appeler le Hard Not Life Tour. Et donc il part en tournée avec Jay-Z, Method Man, Redman,
et Memphis Bleek.
Et Memphis Bleek,
parce qu'on en a parlé, le pilote du Hard Not Life Tour.
C'était le Backstage Tour.
C'est pas Memphis.
C'est qu'il était en même temps, mais bon.
Il devait pas être loin.
Voilà, de toute façon, c'est sûr qu'il était là, Bleek. C'est sûr, certain qu'il était là, de toute façon. À tous les coups, c'est sûr qu'il était là, tu vois. Et donc, en même temps, donc, surfant sur ce succès, Rough Riders aussi, tu vois, ils veulent leur part du gâteau. Et donc, ils vont signer un deal chez Interscope.
Interscope Records, qui est aussi la maison qui publiait Death Row et plein d'autres labels comme ça du hip-hop. Puisque c'était le label fondé par Jimmy Iovine et je sais plus qui.
Idée de racheter leur part, en tout cas.
Voilà. Bah ça, c'est Jimmy Iovine.
Voilà. Et donc, ils vont signer chez un deal
chez Interscope.
Chez Interscope, et ils vont sortir ce single.
Rapper Rough Riders, Swiss Beats, it's almost over, y'all. Jigger, I really stand. Lights out, niggas.
Jigger,
what's my motherfucking name?
Jigger,
and who I'm rolling with, huh?
My nigga.
Niggas better get it right, bitches better get it right. Oh,
Jigger,
what's my motherfucking name?
Jigger,
and who I'm rolling with, huh?
My nigga.
Vous avez reconnu?
Bah oui, c'est GZ.
Voilà. Alors on peut se demander qu'est-ce que Jay-Z fait sur le single de Rough Riders. Tu vois. Mais en fait, Rough Riders était tellement connecté au niveau du management que Jay-Z était le premier single tiré de la compilation Rough Riders, qui est
c'est-à-dire que là, on est sur Ride or Die Volume 1, qui est donc la compile de Rough Riders.
On dirait que c'est une compile presque underground, ghetto, tu vois. Et dessus, le tracklisting est dingue. Et le premier single, c'est Jay-Z. Donc,
Jigga My Nigga. Okay.
Un titre qui va cartonner.
Donc, c'est génial parce que les mecs présentent, en fait, leur collectif avec un mec qui est même pas dedans.
Qui est même pas dedans, exactement. Okay. Tu vois,
bonne idée. Très, très bonne idée. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal pour brouiller les cartes. Alors là, moi, comme évidemment, à chaque fois, n'est-ce pas, on a 6 qui ramène absolument tous les albums. Donc là, j'ai la pochette des Rough Riders. Et alors, je me demandais, mais il y avait qui dans cette équipe? Il y avait qui exactement? Alors, je retourne le livret.
C'est-à-dire, il y a ton t-shirt là, je vois, à commander.
Oui. Ah non, manche longue, jamais de t-shirt manche longue. C'est une faute de goût, c'est comme les Air Force en noir, ça ne se fait pas. Alors, en plus, c'est faux, j'ai des t-shirts manche longue, mais pas d'Air Force noir, parce que ça ne se fait vraiment pas. Alors, on a là-dedans une liste des gens. Donc, évidemment, DMX, les Lox, bien sûr. Dragon, ok. Yves, normal. Swiss Beats, mais il faut bien qu'il soit là. Et alors après, on arrive sur, et c'est marrant parce que même dans la pochette, les gars, ils les ont mis sur des petites photos.
C'est vrai.
Donc, c'est-à-dire que même à l'époque, ils y croyaient pas trop. Alors, il y a un groupe qui s'appelle Parler.
Parler, ah, putain, Parler. Oui.
Donc, mais Parler avec un E accent aigu, qui, j'imagine, faisait du R&B.
Exact.
Mais du R&B, produit par Swiss Beats, ça devait te donner envie de t'enlever tes oreilles. Et puis, il y a deux mecs. Il y en a un qui s'appelle Infrared et l'autre qui s'appelle Cross.
Oui.
Et il fait justement une croix avec ses bras. Comme un plus, et j'en ai jamais putain d'entendu parler. Ouais.
Alors, moi, Infrared, je sais que j'en ai entendu parler parce que j'ai dû entendre un ou deux titres en feat quelque part, mais l'autre,
Cross,
l'autre Cross, non, jamais.
Cross, jamais. Okay. Et Parler, alors, Parler.
Parler, oui, Parler, c'était un groupe d'R&B.
Entre les 112 Total, voilà, Flex, qui, machin, qui, truc, moi, je sais plus.
Qui n'a eu aucune chance.
Oui, voilà.
Qui n'a eu aucune chance.
Alors, et
ça, gros carton. Alors là,
Ride or Die.
Ouais, Ride or Die pour une compilation. C'est rare de sortir une compilation d'un label, d'un crew, et de carton à ce niveau-là. Ils vont vendre 1 million d'albums. Tu vois, ce qui est énorme. Quand on parlait des autres semaines d'un million d'albums, on parlait de grosses ventes.
Donc là, on était à 7 au total avec les deux albums. Et là, ils sortent ce truc-là, il fait 1 million.
Ils font 1 million, comme ça. Tu vois,
alors, excuse-moi, mais selon leurs standards, c'est quand même bof.
Oui. Selon leurs standards, c'est clair que, mais, puisque ça doit être franchement des titres ramenés à droite à gauche avec 2-3 feats puissants, je pense pas que c'est un album qui a coûté cher. Un album compilation, ça coûte pas souvent très très cher. Et pour faire 1 million aux États-Unis, et puis ça, attention, même en Europe et tout ça, ça je sais qu'en France,
ah bah moi,
ça,
Ride or Die avec le Y à Ride, je me rappelle l'avoir vu un peu partout.
Et ça va surtout aider la carrière du neveu, du nephew, Dean, Swiss Beats, parce que ça sera encore lui qui va produire le titre de Jay-Z, Giga Manix, c'est lui qui le produit.
Est-ce que on peut évoquer quand même ses prods? Je me tourne vers Ghislain. Ghislain, vu qu'hier on s'est mangé 3h30 de Californie, qu'est-ce que tu penses de ces prods qui sont dépouillax? Moi, j'ai l'impression qu'il manquait un bout, en fait. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Tu fais oui ou non de la tête?
Oui.
Voilà, il fait oui.
C'est
assez dépouillé, hein, comme.
Disons que c'est, alors, son point fort, c'est qu'il a créé un style. Faut pas là-dessus. Il a créé le style Swiss Beats. T'entends, tu sais ce que c'est Swiss Beats.
Tu sais, c'est Swiss Beats.
Et l'inconvénient, c'est comme il y a très peu de choses dans le morceau, tu vois, il y a très peu de pistes. Tu vois,
en fait, soit il en met trop et t'as l'impression d'être dans un flipper, soit il en met pas assez et t'as l'impression d'être dans une maquette, mais il manque la moitié du truc.
Ouais. Et puis après, c'est redondant. Le problème, c'est ça, c'est que ça se ressemble beaucoup. Mais on est comme un peu partout. Quand ça marche, tout le monde le veut. Donc, Swiss Beats, tout le monde le voulait parce que c'était le hitmaker du moment. C'est difficile de l'imaginer aujourd'hui parce que je sais pas s'il y a encore des compositeurs aussi dominants. Tu vois, à l'heure actuelle, tu vois, j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, les compositeurs,
DJ Mostard, DJ Khaled,
beaucoup moins qu'avant, tu vois. Avant, j'ai l'impression que le nom du compositeur était aussi important, voire autant important que le nom de l'artiste. Aujourd'hui,
Avec la myriade de mecs qui se lancent et qui font des type beats sur YouTube, maintenant t'as l'embarras du choix, en fait. Après, des gros producteurs, t'as Kanye
Kanye qui reste le dernier gros.
D'ailleurs, Kanye West. Nine Founder, tu vas mettre du respect sur Nine Founder.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Mais effectivement, ils sont un peu plus en retrait. T'as toujours Swiss Beats, d'ailleurs, je pense.
Et d'ailleurs, pour l'info, et ça, on peut vous le faire, Kanye West a déclaré que le meilleur rappeur producteur pour lui, c'était Swiss Beats.
Rappeur producteur?
Oui, rappeur producteur, c'est-à-dire qu'il rappe et qu'il fait du son.
Mais non, mais Swiss.
Il rappe pas, tu vois.
Ouais.
Mais Kanye West a déclaré ça. Il a déclaré que pour lui, le meilleur rappeur producteur. Alors, il y a des morceaux où il rappouille.
Ouais,
Swiss
Beats
à droite à gauche.
Bon, c'est pas...
Tu vois, il a fait cette déclaration. Même moi, ça m'a. Mais bon, quand on parlait de Kanye West.
Ouais.
Toujours intéressant de se dire, tiens, c'est bizarre qu'il
dise
ça.
C'est possible qu'il pouvait pas dire lui-même.
Ce qui est étrange, déjà.
Oui, parce qu'il aurait pu dire que, en fait, voilà. Mais non, parce que lui, il fait même plus de la musique. Il est au-dessus de ça, tu vois.
C'est Jesus,
c'est Dr. Manhattan. Voilà. Tu vois, il est au-dessus de la mêlée. Alors donc, très gros succès pour ce Rough Rider Volume 1, Ride or Die Volume 1.
Et ensuite,
qu'est-ce qui se passe du coup?
Et ben là, on va revenir sur le chien.
Alors attends, parce que là, sur le Ride or Die, on est en avril 99.
On est en 99, oui, exactement, avril 99.
Donc là, en avril, ils sortent ça, 1 million de ventes, ils sont contents, mais l'argent, ça suffit pas.
Eh non, l'argent, ça suffit pas, surtout qu'il y a un troisième album qui va arriver.
Et boum.
Avec ce titre.
Ah, les sifflets.
C'est la fin de la récré. Tout le monde entre.
Ah oui.
Y'all gonna make me go all out. Up in here, up
to you cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your mates have been to jail before, suck my dick. And all the motherfuckers you run with, get done with, done quick.
Ah, alors, avant toute chose, je veux. Alors, moi, ce morceau-là, je dis ok. Tu vois, c'est pas ma cam et tout, mais c'est ultra efficace. Alors, oui, il y a les sifflets de football. Oui, il y a le fond, la mélodie qui ressemble à une démo sur Amiga d'un jeu Psygnosis ou d'un truc comme ça, tu vois. Genre, Lotus Esprit Turbo Challenge, tu vois. Mais ok, franchement, ça marche de ouf.
Et ça, c'est ça, tous les party break de l'époque.
Bah oui, ça, c'est. Ouais.
Tout le monde l'avait. T'avais dessus, t'avais les. Comment ça s'appelait les, Big Ali. Non, pas Big Ali, mais avant, l'original. On s'appelait celui qui faisait avec Face 7, les party break de l'époque. Put your hands up, put your hands up.
Ah oui, bah ouais, d'accord, ok. Je sais pas Big Ali, mais.
Non, non. Voilà. Et je sais pas comment je peux oublier ce nom, mais pour ça, on va revenir. Et les party break, tous les DJ le mettaient. C'était party starter. C'est-à-dire, ouais. Tu voulais démarrer une soirée, pouf. Allez, hop, pouf, tu mettais ça et tout le monde
tout
montait
le monde
sur la piste.
Tout le monde arrivait sur la piste, ouais.
C'est son plus gros hit single, c'est-à-dire en hit single, en titre, donc single, c'est son plus gros carton celui-ci, le Party Up. Donc on est sur le troisième album avec un single qui cartonne de fou. Et ben donc on va arriver encore à des chiffres détonnants, parce que cette fois-ci on va pas être à 3 millions ni à 4, on va être à 5 millions d'albums vendus.
C'est vrai ?
Ouais, 5 millions d'albums vendus pour cet album. Tu vois ?
Putain, le mec ! Ouais. Ah mais la machine !
Ouais. Ah là c'est vraiment...
Ah non. C'est une machine, c'est incroyable.
Donc,
alors que vocalement ça ressemble à du Ja Rule de ouf !
Mais Ja Rule sera considéré comme du sous DMX. Hein.
Ouais, moi je sais pas.
Il est sorti avant Ja Rule. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Avant. Parce que pour moi Ja Rule c'était même comment il s'appelait ? Il avait une clique.
Le Murdering ?
Non, non, non. Ah ça bon c'est quand il était connu.
Ouais.
Moi je l'avais vu dans The Source, pareil, ouais. Dans les pubs, tu sais, vers la fin, ah, là, ouais. Quand c'est tous les trucs un peu indés et tout. C'était Cash.
Ah oui, je vois de quoi tu parles, mais je pense.
Cash Money, non pas Cash Money, mais bref, enfin un groupe de chiens de la casse là. Et après effectivement il a eu son imagerie Ja Rule, mais donc. Ça, c'est Ja Rule, il est arrivé avant.
Il est arrivé avant, mais DMX a tellement cartonné que Ja Rule est devenu du sous DMX.
Putain, les boules.
C'est.
Il y a eu un featuring.
Oui, ils ont fait un morceau de Monica Chose, je crois. Monica Chose.
Monica Chose. Hein,
Monica Chose.
Argent et pute.
Voilà.
Ok, normal, beau programme. Mais du coup, on arrive à savoir qui rappe.
Oui, oui. En fait, bah oui. Étrangement, tu vois, on a l'impression que les deux sont très très similaires, mais quand tu les écoutes les uns derrière les autres, Ja Rule est plus mélodique. Il est plus dans la mélodie alors que DMX.
C'est rock. Hein. Voilà, c'est très rock.
Voilà, c'est très tac 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 tac. Voilà. Donc là, il est carrément sur une autre sphère. DMX, il est ailleurs. Quoi. Et là, il faut se mettre dans le contexte. Certainement lui, dans sa façon de penser, il est loin. Il est.
Ah bah oui, je pense que déjà il était pas complètement terminé alors qu'il était inconnu.
Ouais.
Là, le mec, donc il fait 4, 3, 5. Donc on est à 12 plus 1 Rough Rider. Donc le mec, il fait 13 millions d'albums
en moins de 2 ans. En moins de deux ans. Et c'est la première fois qu'un artiste hip-hop
incroyable
va faire 3 numéros 1 d'affilée pour un artiste qui commence. C'est-à-dire que son premier album, son deuxième album, son troisième album va faire...
Multiplatine.
Non, numéro 1 des ventes à chaque fois.
Numéro 1.
Et là, c'est unique. Et... C'est la première fois que ça va arriver dans l'histoire du hip-hop.
Donc, et ça s'est reproduit depuis ou pas ?
Je sais pas, ça peut être.
Ça c'est fou parce que ça, tu vois, c'est une dimension business que on n'a pas forcément nous de ce côté-ci de l'Atlantique. On sait que le mec est connu, ok, qui fait des clips qui coûtent cher avec des motos qui font des donuts, tu vois.
Ouais.
Mais le côté 15 millions d'albums en trois albums en 2 ans.
Ouais. Non, c'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Je pense que ça s'est jamais reproduit. Parce qu'après
c'est
dilapidé, tout c'est. Là, c'était. Il y avait une concentration sur lui. En fait, t'avais l'impression que il y avait que lui qui existait dans ce créneau. Alors, ce qui est important, parce qu'on envisageait tout à l'heure de discuter, c'est pourquoi ça marche autant. Pourquoi DMX il marche autant.
Ouais. Pour quelle raison.
Ce qui est important de savoir, c'est que aux États-Unis, donc le hip-hop, c'est 1 million, 2 millions quand ça marche bien. Mais après, si tu veux aller plus loin, il faut plaire à un autre public. Et le public, c'est le public rock, le public metal, le public du blanc américain. Tu vois. Et DMX, il est super apprécié chez les métalleux.
Ah, parce qu'il a l'imagerie, il fait de la moto.
Il est dark, il est
ultra punk, en fait.
Voilà. Et c'est ça, en fait, DMX, il est ultra punk. Vraiment, vraiment. Et son premier album, donc, It's Dark and Hell is Hot, est considéré comme un classique chez les métalleux. Et vraiment. Il va être invité dans les festivals de hard rock. Il va être invité, il va faire des feats.
Je pense que ce mec-là, sur scène, ça slame dans tous les sens.
Ah, mais complètement. Je sais pas si tu te rappelles, il avait toujours la salopette avec un. une épaule lâchée. Ouais. Et tu vois, il était toujours avec son été, avec sa salopette, ouais, torse nu. C'était son style, Jimmy. C'était son
style. Ils donnaient à fond. Salopette Timberland.
Ouais, et... voilà, 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 c'est ça. C'était vraiment son imagerie. Et il a, donc, il a fait des chiffres complètement hallucinants. Hallucinants.
Donc, merci le public rock qui se déplace et qui achète des disques. Hein.
Exact.
Et ça a permis, en fait, à DMX de transcender son statut de star du hip-hop. Ouais. Mais même, 15 millions d'albums en 2 ans. On dit ouais, c'est incroyable pour le hip-hop. Je crois que c'est incroyable pour la musique tout court.
C'est incroyable pour la musique tout court, mais vraiment, je pense que il faut revenir à des chiffres, faut revenir comme je sais pas, bon, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais Madonna.
Ouais,
ou,
voilà, c'est ça.
T'es des plus grosses pop stars, tu vois.
T'es sur une trajectoire c'est... là quand même. Ouais. Effectivement, tes concurrents, ouais, c'est pas 50 Cent. Ouais. Et encore, pourtant 50 Cent, t'es pas mauvais, tu vois. Ouais. Mais ouais, t'es carrément dans une autre sphère. C'est marrant. J'avais vraiment pas du tout conscience de ça, tu vois.
Et
alors du coup, ouais, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, lui, il va continuer.
Donc là, on est en
99,
2000. Donc là,
on arrive en 2000 et il va continuer le cinéma. Donc avec un film qu'on a, je pense aussi, nous eu en France, qui est Romeo Must Die.
Oh là 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 là.
Avec Alia.
Ah oui, avec Alia, mais avec aussi avec Jet Li.
Et surtout Jet Li, oui.
C'était, voilà, je pense, le couple le moins crédible de l'histoire du cinéma. Parce que la romance, mais à aucun moment t'es dedans. Mais vraiment jamais.
Alors,
je sais pas si c'est parce que Alia joue mal ou Jet Li, il est mieux quand il dit rien. Mais même son style, y a rien calé en fait. Y a rien calé. J'ai Jet Li avec des cheveux déjà.
Et ça, mais pourtant le film va cartonner. Hein. Numéro 1, box office, ça va vraiment. Moi je crois que c'est le film qui a ramené Jet Li à Hollywood.
Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout, le single d'Alia.
Ouais.
Bien Try sûr. Again, là.
Avec Timbo, là.
Avec Timbaland,
c'est incroyable.
Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe?
Alors, à ce moment-là, Rough Riders, ils sentent toujours le coup. Bon, là, on va y aller tranquillement.
On va en profiter.
Voilà, on va sortir notre deuxième compilation, volume 2.
Ah, donc, il y a vraiment eu un volume 2. Parce que souvent, dans le rap, 2. On le dit, ils font des volumes 1 en se disant, je me laisse la porte ouverte, mais il n'y a jamais de volume 2. Là, il y a vraiment eu un.
Il y a vraiment volume 2.
Ride or Die, volume 2.
Là, ils savent qu'ils peuvent y aller. State your name, gangster. Big Snoop Dogg, only representing West Coast. You gonna hold it down? Please believe me. Enough said, then, nigga. Hold on. Let's make this official. Shine your boots and load your pistols. Pull out your best credentials, cause this'll be the official for the fictitious doggy dog and big swizzle. Nigga, blow the whistle. Smoking.
Ah, I already have a sifflet. Get your make you all get the pitch. Dig this. Alors, donc ça c'est le single World War 3,
voilà,
avec, donc on l'a entendu, Snoop, mais aussi Scarface, Jadakiss et Young One
de Atlanta.
Ok, d'accord.
Alors, morceau concept, c'est-à-dire des quatre coins des États-Unis, un MC. Ouais. Et c'est un titre qui va vraiment marcher.
Ah d'accord. Oui,
qui va vraiment marcher. Et après, ce sera repris par tout le monde. Tout le monde va rapper sur cet instru en disant, je représente cette ville, je me vais. Et là,
très bien.
Ils ont créé,
bien.
Le concept est énorme. Là, ils ont vraiment, et ce titre-là, il va vraiment, vraiment bien marcher. Hein.
Ah d'accord. Donc en fait, ils ont pris des représentants de chaque coin.
Voilà.
Et...
Exactement. Il y a chaque fois, c'est State Your Name, Gangster. Le Snoop dit Big Snoop Dogg, What You Represent, West Coast, et là, boum!
Ouais,
et donc Scarface dit pareil avec
Houston.
Voilà, et puis chacun fait sa sauce. Et donc tous les MC vont le reprendre, tout le monde va le reprendre en se plaçant dans le morceau. C'est super intelligent, c'est super
c'est
bien trouvé.
Très malin. Et alors là, du coup, parce que surtout en plus, en 2000, on était, c'était après la guerre East Coast-West Coast, donc c'est bien, ça crée de l'unité aussi.
Oui, là c'était dans le rassemblement
tout
total.
Le monde, tout le monde revient. Voilà. Et donc là, sur cet album, il y a, je vois, du Redman, du Method Man.
Il y a tout le monde.
Busta, Twista, Trick Daddy de Miami.
Oui.
Ah, il a parlé. Bon, c'est le morceau numéro 16. C'est le dernier. C'est le dernier de l'album. Alors, encore une fois, des prods dépouillés. Je vais même pas regarder qui a fait les instrus. Bon, allez, si, tu sais quoi.
Bah, je pense que Swiss Beatz.
Un de ses petits frères, je sais pas. Voyons voir. Ah, produit par Swiss Beatz. Ouais. Hein, d'accord. Et puis le deuxième, produit par Swiss Beatz. Ok, d'accord.
Après, c'est aussi du business. Tu vois, c'est-à-dire que c'est produit par nous, c'est les sons de nous, enfin c'est nos sons.
Les sons
c'est
de nous, là, on a entendu le sifflet.
C'est aussi logique, voilà, Swiss Beatz, c'est l'artiste Rough Rider, c'est lui qui fait les sons.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans tous leurs albums, donc là, les mecs, ils ont pris une balle de Kalash super étendue pour pouvoir mettre tous les crédits. C'est une bonne idée. En fait, à chaque fois, eux, il y a limite des bons de commande dans le bouquin, enfin dans le petit booklet, où soit ils te disent ce qui va sortir dans pas longtemps. Et là, c'est génial parce que du coup, tu vois Rough Riders Coming Soon. Donc il y a les albums solo de Jadakiss et de Parler. Donc ils sont vraiment. Et alors, c'est génial. Le Parler. Comme c'est des Américains et qu'ils ont pas de clavier accentué, ils ont fait Parler et derrière il y a une apostrophe parce qu'ils ont pas trouvé le E accent aigu en code ASCII. et il y a un bike tour street extreme sport championship 2000. Donc c'est à dire que Rough Rider c'était pas de la blague. Il se diversifie en fait.
Mais je sais que même à l'époque, ils sponsorisaient des bikers dans les compétitions motocross et tout.
Hein. Ouais, To the Rescue Foundation, et en plus, ils donnent de l'argent à la SPA.
Ah, ça, c'est un souvenir.
Bah non, mais ils ont, franchement, très bien. Très belle. Franchement, ils ont une belle dynamique.
Ouais, les frères Dean, franchement, respect. Ils ont construit. T'as l'impression que tout est bien fait, tout est bien planifié. Le next move, il est déjà pensé. Tout est. Non, vraiment, bravo. Parce que, donc, on est sur un deuxième volume de compilation qui, normalement, comme t'as dit, ne sort pas. Ouais. On flop. Énorme.
Ouais, parce que la mode est passée.
Voilà. Et là, non, ils vont quand même en vendre, ils vont faire disque d'or, beaucoup moins. 500
Alors,
000.
Disque d'or aux États-Unis, donc 500 000.
Mais ce qui est pour un volume 2 d'une compilation, il est extraordinaire.
C'est moitié moins que la première, sachant qu'on est, la première c'était avril 99, et là on est à l'été 2000. Oui. Donc les mecs, ils matraquent, quand même.
Ils matraquent, vraiment.
Entre deux compiles, ils mettent un album de DMX, histoire de faire remonter la sauce.
Exactement ça, tu vois. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça aux albums. Tu sors un album, l'année d'après une mixtape, après un album, une mixtape, un album, une mixtape, tu vois.
Ou alors quand t'es Currency, tu fais mixtape pendant 10 ans, et après tu fais album, mixtape. Ouais. Bon, ok.
Et donc là, voilà. Donc, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que les chiffres sont un peu moins bons. On sent que
les mecs ils seraient chez Columbia, ils se seraient fait dropper.
Certainement.
Heureusement, ils sont pas chez Columbia.
Et là, il va y avoir les premiers problèmes. Donc on retrouve encore le schéma classique, c'est-à-dire le succès, tout ça, tout on monte très haut, on monte très 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 haut, l'argent coule, tout ça. Mais le problème de DMX, il l'avouera lui-même, c'est sa bipolarité. C'est-à-dire que.
Alors attention avec ce terme. On est en 2019, il ne faut plus utiliser les termes de maladie potentiellement mentale. Donc là, il est vraiment bipolaire, ou juste c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité assez expansive.
Lui dit
qu'il est bipolaire.
Lui dit qu'il est bipolaire.
Au sens clinique du terme.
Ouais, au sens clinique du terme, c'est-à-dire que ça lui est arrivé, il y a des histoires, des rumeurs qui racontent que des fois il faisait des choses. Alors certainement sous aide de substances
de psychotropes, on va dire,
et il fait des choses, et le lendemain il se souvient pas du tout. Tu vois, il a des interviews où il est perdu, il sait pas ce qu'il dit, on sait pas trop, et le lendemain il dit j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça. Il avait vraiment une double personnalité. Alors on sait pas trop d'où ça vient.
Moi, il est chez père,
on va dire ça comme ça. Oui, je pense qu'il
s'est pas habitué à ce type de bière.
Puis je pense qu'il abusait aussi d'une substance du crack, parce qu'il s'en cachait pas, hein. Il était crackhead.
Putain, le crack
cocaïne au début, cocaïne quand t'as de l'argent et crack après quand t'as de l'argent, crack quand.
C'est-à-dire que là le mec il vend quand même 15 millions d'albums mais il reste au crack. C'est quelqu'un qui reste près de ses valeurs quoi.
Ouais, bah c'était vraiment ça, c'était il avait une maison, tu sais, c'était une sorte de refuge avec une quinzaine de chiens chez lui. Tout était étrange, il y avait des mythes, des rumeurs sur là-dedans, tu sais pas trop, il pouvait être enfermé pendant une semaine, 15 jours là-dedans avec ses chiens. C'est tout était bizarre, tout était étrange. En fait, il y a un mythe DMX, tu vois. C'est
il y a eu le même mythe sur R. Kelly, on a vu comment ça a fini, donc je m'attends à voir DMX traîner en justice pour des histoires un peu sombres. Mais bon.
Donc, après arrive donc 2001, et là, sort le quatrième album avec ce titre. One more time, I got to hit the streets off. Make the streets talk, let them know it ain't a sweet walk. This gon' be the only joint made this year. Little knock to 2003. Ouais, il a toujours la patate, hein.
Elle a la patate,
hein.
C'est agréable à écouter, quand même.
Ouais.
Déjà, il n'y a pas eu de sifflet.
Non, c'est.
c'est pas Swizz.
C'est pas Swizz, mais c'est Black Key. Okay. Black Key qui produira ce morceau. Et donc, l'album s'appelle The Great Depression.
Bah déjà,
on reste toujours dans le côté très gay de l'histoire. Et alors, il va encore faire numéro 1. Donc, on est sur quatrième numéro 1 de suite. Donc son record est encore amélioré. Mais l'album va moins vendre.
Ouais, les autres. J'ai les chiffres là. Voilà. Ils vendent 3 millions.
Ils vendent 3 millions.
Ça va.
Et tu vois, et étrangement, à ce moment-là, des gens vont commencer à penser que bah c'est sur la pente descendante et que
tu vois,
ça commence
ça,
à
ça c'est l'Amérique
tu vois voilà
l'Amérique ça m'énerve ce pays m'énerve là le pays où il faut toujours surperformer tu vois, je veux dire
c'est ça
t'as vendu 15 millions d'albums en trois albums solo
ouais, ouais.
Tu fais 3 millions sur ton quatrième Memphis Bleek
oui.
Paix à son âme Memphis Bleek il totalise même pas tout ça ouais, en comptant toutes les featurettes et même mais tous ça. Les artistes qu'on rappait avec lui. Ah là 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 là.
Eh oui, bah oui, c'est ça, mais comme tu dis, c'est le business de la musique et l'industrie musicale aux États-Unis qui est impitoyable.
C'est impitoyable. Ah ouais.
Impitoyable. Et donc, on ferait d'un.
Donc là, du coup, ça, c'est considéré comme quoi? Un succès, quand même?
C'est un succès, mais sur la pente descendante. C'est-à-dire qu'on commence à entendre avant, là où c'était la suprématie, personne n'aurait rien dit quand on dit émission.
Oui, bah oui,
ouais. Là, on commence à entendre ouais, mais ça commence à saouler, faut faire attention.
J'aime bien les petites voix,
tu vois. C'est, okay. Voilà. Alors, on commence à entendre ça, tu vois. Bah, je ouais. Pour avoir le souvenir, cet album qui est un album qui va beaucoup moins marquer. Il a vendu 3 millions d'albums, mais l'album, même la cover, moi, je me rappelle plus trop de la cover, tu vois. Alors, ouais. Je sais que là, elle est là, c'est une cover assez dark, hein. Je trouve que c'est juste un paysage.
The Great Depression.
Voilà, celle-ci. Là, la cover me parle pas, alors que les autres me parlent.
Ah, mais mec, je l'ai sous les yeux, je comprends même pas ce que je regarde. Attends, qu'est-ce que c'est? Mais non, mais je comprends rien. Attends,
c'est
l'image, je la comprends. Oh là là. Ah oui, c'est un genre de jeté à moitié démoli sur un lac industriel. Ah ouais, non, c'est nul.
Ouais. C'est,
on comprend que c'est la dépression, quoi.
Ouais, voilà. Là, c'est, par contre, c'est clair qu'il aurait pu mettre un petit shirt, c'est derrière qui court. Mais...
Et alors, derrière, au dos de la pochette, en quatrième de couve, du coup, il est devant une Rolls Royce, mais une épave. Ça, c'est cool.
Ouais, c'est pas mal.
Pour montrer que c'est vraiment la Zermi.
Ouais, ouais.
Par contre, le livret, pareil, qualitatif.
Ouais, oui, très.
Belle photo à l'intérieur.
Il va devoir un petit budget ouais, marketing. Mais bon, ce qui ne veut rien dire, quoi, si on pense à 50.
Et alors là, tu vois, alors pareil, dernière page du livret, Rough Riders présente. Et là, t'as DMX en magasin, Yves en magasin, Jadakiss en magasin. Et ensuite, t'as Styles, Coming Soon, Dragon, Chic, Parley, Find, Lox, Infrared et Cross. Ah, Infrared et Cross, ils sont ensemble.
Ouais.
Finalement, ils ont dit, bon, en solo, voilà, on va vous mettre ensemble. DBL, R2, Apparel, Tug Workout, Fitness from the Street. Et Motorcycle Network.
Je suis passé à côté de ça, du Fitness from the Street.
Fitness from the Street. Tug Workout. franchement, les mecs, non, mais tu vois, moi, respect. Respect à Rough Rider parce que, bah ouais, en fait.
Tiens, d'ailleurs, ça mérite une recherche, ça, tu vois, de voir quel exercice il faut faire pour.
Tug Workout. Il faut soulever des flingues, il faut soulever de la drogue. Et tout. Fitness from the Street. Et donc, Motorcycle Network. Tout ça, c'est en coming soon. Je suis pas sûr que ça ait fini par arriver.
Non. Non, parce que Rough Rider, eux, par contre, ils vont sentir un peu le vent tourner, je pense. Ils vont vite fait de sortir leur troisième volume.
Ah putain.
Eh oui.
Ah ben on peut dire que eux ils se foutent pas de notre gueule.
Non, eux ça, ils savent très bien. Ils ont un deal chez Interscope. Il faut le faire fructifier. Il faut y aller, tu vois.
Donc Rough Rider, Ride or Die volume 3.
Voilà, volume 3. Et je veux dire, normalement j'ai pas d'extrait parce qu'il y a vraiment rien à en tirer.
Tu l'as?
Oui, il est là. C'est franchement.
Il n'y a pas grand chose à en tirer.
Ouais, vraiment. Et d'ailleurs au niveau des chiffres, ils vont faire beaucoup moins. Ils vont faire 300 000.
Hein?
Oui, 300 000 ventes, tu vois, donc...
Attends, alors on prend sur le premier, c'était 1 million.
1 million, après 500 000, et après 300 000.
Bah, au moins, ils sont cohérents avec la démarche.
Mais celui-ci, ça fait vraiment... Là, on est vraiment dans la phase B. T'as l'impression qu'il y a DMX qui a fait une petite apparition, le reste, c'est...
Il y a peut-être Infrared et Cross.
Certainement. Certainement,
Il parlait. Voilà. Ah là là. Ouais. Ah, bah, il y a Petit Pablo, dis donc. Dragon. Ah bah, parler, ouais. Ok. Timbaland.
Oui, Timbaland qui fait une production sur un titre avec je sais plus.
Au niveau des leaflets, il y a quand même un mètre de documents et un mec en moto qui cabre. Eh ben ouais.
Voilà.
Très bien.
Et donc là, ça descend dangereusement. Vraiment, là, c'est.
On 300 000.
Est,
hein.
Ouais, on est en 2001, 2002. Donc c'est vraiment super condensé. Hein. On a commencé en fin 98-99.
Ouais. Mais du coup, est-ce que eux, quand ils sous-performent, ils font comme Rof, par exemple, qui dit que c'est à cause de la neige qu'il a pas vendu d'album ou des trucs comme ça. Est-ce que eux, ils disent ouais, c'est à cause du World Trade Center ou tu vois? Non, on est en décembre 2001.
Ouais. Ah oui. Non, on est en décembre 2001. Non, je pense qu'il y a pas d'excuse. Je pense que pour eux, ils justifient ça par c'est comme ça. C'est la vie.
Ouais.
C'est la vie quoi. Okay. Et
Interscope leur dit pas bon les gars.
Ce sera le dernier album chez Interscope.
Ah, ok.
Donc c'est voilà, après ça, ils n'auront pas le droit de sortir une quatrième compile. Ils vont sortir une quatrième compile, mais qui sera en indé, pas chez Interscope.
D'accord. Donc quand même, Interscope, les drops, à un moment donné, ils disent, bon, ça suffit. Ouais.
Et alors, Swiss Beatz, lui, de son côté, qui c'est pendant des années quand même produit pour tous les autres artistes, va avoir la bonne idée de sortir son album à lui. Et donc, il va sortir son album qui s'appelle Ghetto Stories. Et il va sortir un titre. Un titre, donc, avec un des membres de The Lox, qui est...
Every day I need an ounce and a half. SP, the only flow that you know, with a bounce and a half. Listen, kid, I need a mountain to cast so I can roll up, hop in the whip and like bounce to the ab. I get high cause I'm in the hood, the guns is around. To take a blunt just to ease the pain and humble me now.
J'adore ce sample, je me suis saisi de mon Spotify parce qu'évidemment j'écoute l'original en boucle, mais je suis incapable de te dire qui c'est. C'est Freda Payne.
Oui,
c'est Freda Payne.
Oui.
Et c'est un sample, I Get High, qui est utilisé aussi par Madlib pour l'album qu'il a fait, Pignata, avec Freddie Gibbs et en featuring avec Danny Brown. Et franchement, écoutez-le parce que le morceau défonce et j'adore ce son.
Très très bon, très très
Donc très efficace.
Très très efficace. Et
sample pitché. Ouais. Donc là, Swiss Beatz, attention, c'est du Kanye West.
Franchement, mais complètement.
Pas de sifflet.
Oui, pas de sifflet, rien. Non, c'est... Alors, c'est une coprod. Je sais plus de qui c'est.
C'est pour ça. Voilà. Je me disais, c'est incroyable. C'est le mec, la voix de la raison.
J'ai pas le
okay,
le
c'est titre parce qu'il est pas
mais
seul.
C'est une coprod, donc je pense, et surtout à l'époque, ça se passait vraiment comme ça. Les producteurs, les compositeurs très importants recevaient des beats d'autres compositeurs. Et souvent, ils aimaient bien, ils leur disaient, bah, écoute, viens, amène-le.
Viens, je mets mon nom dessus.
Je mets mon nom dessus, je mets la petite touche, je mixe deux, trois caisses dessus, et puis on fait à deux le titre, tu vois.
Tu viens de faire Dr. Dre, là, en fait.
Oui, voilà, mais tout le monde faisait pareil. Avoc, tout le monde faisait pareil. C'était vraiment, c'était commun, et ça aidait tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que si toi, ça te donnait ça te mettait le pied à l'estrier. Parce que ça te permettait d'avoir ton nom collé à un gros producteur. Et puis, si t'avais le talent, après, tu faisais ta carrière de toi-même. Hein. Scott Storch l'a très bien fait, avec Timbaland. Plein de personnes ont commencé comme ça.
Alors, attends, il est où ce morceau-là? Je le trouve.
Alors, oui, parce que. Alors là, ils ont mis nos typos.
Ah, oh, putain, ouais. Pour trouver. Les crédits, là, t'as l'impression d'être un hacker.
Ouais.
Merde.
Et donc, ça, c'est une compile qui va moyennement marcher. Elle va faire 200 000. Donc, mais ce titre-là va être repris après. Il va avoir une belle carrière.
C'était Good Times, on est
d'accord. Good Times, exactement. Ouais, et ce titre-là va avoir une belle carrière, surtout sur l'album de Styles P. Parce que Styles P va le reprendre, lui, ensuite. Il va le clipper. Et puis là, ça va vraiment être un gros titre de l'époque.
Ah bah oui, c'est produit 2002. Par un mec qui s'appelle Saint Danson.
Voilà.
Co-produced by Swiss Beatz. C'est pour ça que c'était audible. Ah là là. Ouais. Ok.
Ouais. Donc voilà, Swiss Beatz qui continue son petit bonhomme de chemin. Ce sera d'ailleurs le plus malin de toute la troupe. Hein, on verra tout à l'heure.
Et alors du coup, ouais, lui, ça se vend bien son...
Ça se vend bien, 200 000, mais c'est en indépendant. C'est sorti en indépendant,
d'accord.
Ça. Donc 200 000 en indépendant.
200 000 en indé, tu manges bien. Quand même.
Oui, tu manges, je pense, très très bien, je pense. Hein. Et donc, en revenant maintenant à notre
ami DMX.
Voilà. Lui va prendre un peu de recul.
Donc lui, il n'a pas un frère qui s'est explosé en moto ou quoi.
Non,
hein.
Okay. Et donc il va prendre un peu de recul, il va sortir une biographie que j'ai eu l'occasion de lire, qui est incroyable. Franchement, ouais. Oui, le Earl, tes autobiographies, elle est incroyable, cette histoire. Et donc, il raconte là-dedans toutes ces histoires de chiens, comment son chien s'est fait buter quand il avait 9 ans.
Oui, parce que DMX a dans le dos un tatouage, c'est une tête de pitbull avec écrit Boomer, qui était le nom de son chien préféré.
Oui.
C'est ça, c'est un signe d'amour et ça prend tout le dos. Hein, donc, et c'est ton pote? Non? C'est mon chien. Ouais. Ok. Voilà.
Et donc, mais bon, au bout d'un moment, on a un contrat chez Def Jam. Il faut sortir.
Ouais, il faut aller au charbon.
Il faut aller au charbon, il faut aller bosser, tu vois. Et il va sortir son 5e album, donc Grand Champ, avec ce titre. Let's get it on. We don't give a what, what. We don't give a what, what. Get it on the flow. 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 You don't wanna party, then your ass gotta go. You don't wanna party, then your ass gotta go. And you can ride with us on the floor. Bounce with us on the floor. Freak with us on the floor. Let's get it on. Once again, it's the darker nigga, hit a sparker nigga, make a partner nigga, but the dog is bigger, under stress, doing less.
Et ça sonne presque Dirty South là. Hein.
Ah oui. C'est l'époque où Swiss Beatz fait beaucoup Dirty South, il reprend toute sonorité Dirty South. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque titre, si vous avez écouté depuis le début chaque single, il dit toujours let's back again, allez, ouais. On y va, on y retourne. J'ai l'impression que c'est toujours son intro. Allez, back again, once again. Et c'est marrant, c'est là je me rends compte en les écoutant, il est derrière les autres. Il fait toujours cette intro-là.
Genre, c'est, bah, bon, c'est comme TIP, TIP, Live from the VIP, tu vois.
Oui, voilà. Et okay. Alors, c'est un titre qui va marcher moyennement. Là, on est vraiment dans.
Est-ce qu'il n'y a pas un changement de mode aussi au niveau du son? Quoique non, parce que le Dirty South, là, à ce moment-là, ils sont pleins de balles, ouais. Quand même.
Mais c'est Rock Café, là, qui va prendre le. À cette époque-là, on est vraiment dans un croisement où Rafa Riders descend et Rock Café la monte.
Okay.
Et en plus, Rock Café là, bon, donc avec le. Bah, avec, comme on a expliqué avec l'épisode Memphis Bleak. Pas toute la troupe. Ouais. Rock Café là, c'est Jay-Z, mais c'est aussi Steph Roberti, Billy Siegel, Freeway, et tout ça. Et alors c'est un album qui va encore faire numéro 1 en Billboard.
Ah, quand
c'est
même.
Incroyable. C'est-à-dire c'est son cinquième numéro 1 Billboard.
Cinq albums.
T'imagines, cinq albums, cinq numéros. C'est une performance unique.
Ouais.
Et tout s'explique encore une fois, sa fanbase qui est diverse et variée, quoi.
Ouais.
C'est il va en vendre 1 million.
Ce qui est quand même bien.
Correct. Hein. Ouais. Ce qui est correct. Donc ça veut dire qu'on est sur un album moyen. Qui même ouais. Par la critique, les gens diront bon, c'est un album qui ne laissera pas de traces,
ouais.
Mais qui va vendre 1 million, c'est-à-dire qui est une performance pour un classique chez d'autres artistes, tu vois.
Ouais, c'est ça.
C'est phénoménal, c'est vraiment phénoménal. Mais pourtant, tu vois.
C'est ça qui te rend compte quand même que le marché américain s'est complètement déglingué.
Hein. Ah oui, mais bien sûr, il est déglingué. Parce qu'en
c'est,
fait.
C'est ouf.
Voilà, tout est c'est dans des strates. C'était une pop star, une superstar. Je pense que les budgets sont tellement énormes.
Mais t'es obligé de vendre, en fait.
T'es obligé de vendre. Qu'un million, ça suffit pas.
Sauf accident industriel.
Voilà. Parce que Damix était dans les superstars. Il était au niveau de, je sais pas, comme on disait, Madonna. Et donc, il va se faire, aussi incroyable que ça puisse paraître, il va se faire virer de chez Def Jam. Après cet album-là.
Mais, putain.
Pourtant, 1 million de ventes, hein. Tu vois.
1 million de ventes, et puis surtout, ouais. Tu totalises, ouais. Là, il est à quoi? Là, il a quasiment 20 millions d'albums.
Aux États-Unis, plus le monde,
Oui, parce qu'à chaque fois, les chiffres qu'on donne,
voilà,
c'est les chiffres américains. C'est américain, donc. Ouais.
C'est chiffre Billboard, quoi.
Et le mec se fait drop. Alors, ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut pour rester dans une maison de disques dans ce pays de malade, là?
Alors, on est déjà sur le 5e album, hein, ce qui est pas mal, hein, pour un rappeur.
Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, moi, je suis une maison de disques. Le mec, il fait 5 albums solo. Les 5 albums, ils sont premiers au Billboard et ils pètent en multiplatine. J'ai tendance à garder le gars, tu vois.
Normalement, tu le gardes. Mais ouais. On sait pas le contexte. On sait pas non plus.
Ou alors, est-ce qu'il était gérable sur 5 albums. Ouais. Ah, est-ce qu'il est gérable? Ah, bah non, ça, j'ai déjà des petites indications sur le personnage.
Et tout ça. Et puis surtout, les avances. Enfin, après, c'est les artistes qui plus ils vendent, plus ils demandent des avances. Donc, au début, t'es d'accord. Tu dis, pour 5 millions, je lui donne ces 10, 15 millions de dollars.
Ouais.
Après, il vend 3 millions. Les 10, 15 millions, tu fais bon. Tu vois, et là, quand il vend 1 million, ou alors il a dû demander 10, 15, 20 millions de dollars, il est plus rentable du tout. La maison disque, elle perd de l'argent sur ce disque-là.
Mais pourquoi? C'est quoi ce système d'avance? Pourquoi est-ce que.
Mais en fait, les artistes américains et même français, hein, pour bien les connaître, ils vivent sur leurs avances. C'est-à-dire que tu as une avance sur les ventes, sur les royalties.
C'est un avaloir sur, sur ce que tu vas vendre.
Exactement. C'est-à-dire que tu vas demander un, deux, aux
États-Unis. Et c'est pas mieux, par exemple, qu'on te donne ta thune quand ton album il s'est vendu?
Et alors, tu sais quoi?
C'est quand même un système de salaire.
Et oui, ben c'est ça. Mais en fait, ils considèrent aux États-Unis, ils ont raison, parce que pour l'avoir vraiment vécu, que quand une maison disque te donne de l'argent en avance, derrière, elle va se bouger le cul pour attraper son argent. Pour recouper, on dit, tu vois.
Recoupe.
Et voilà. Et ça, c'est vrai et véridique. C'est-à-dire que si tu ne demandes pas d'avance, ils vont pas se bouger le cul. Parce que t'es pas une priorité. Alors que si t'as demandé une grosse avance, et c'est pour ça, on est toujours là en train de se demander, mais pourquoi ils demandent une avance? Pourquoi ils se contentent pas de vendre des disques? Et non. La stratégie, elle est de demander
c'est-à-dire
une grosse avance.
Pour que la maison de disques, finalement, fasse son travail.
Exactement. Il faut qu'elle ait de l'argent à récupérer.
Mais c'est une technique de gangster. Ouais.
Mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est véridique. Et c'est,
d'accord.
Tu vois. Et donc, aux États-Unis, c'est encore multiplié par 10, par 15. Donc, les avances, ça sont énormes.
C'est-à-dire qu'une maison de disque, si l'artiste demande pas une grosse avance, la maison de disque, ça fait gros, s'en bat les couilles.
C'est pas une règle, hein. C'est pas une règle.
Ouais,
mais elle va forcément se bouger plus
vraiment
le cul.
Pour la motiver.
Tu vois, elle va se bouger le cul pour recouper l'argent, tu vois.
c'est marrant comme.
Eh oui, mais ça, c'est véridique. En France aussi, il y a des chiffres moindres, mais.
Oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que j'entends aussi parler des avances,
des
machin.
Des avances, moi, je sais que les artistes, ils courent après leur avance. Et je comprends aussi le délire. Parce que
et alors, c'est, alors voilà. Juste parce que là, donc point business, hein, mais bon, ça fait partie aussi de l'univers de cette émission. Mais les avances, elles sont. Est-ce qu'un artiste, par exemple, il peut te dire, file-moi 200 000 euros, c'est du one shot? Ou est-ce qu'il peut te dire, donne-moi, tu me donnes 5 000 balles par mois et je suis bien? Est-ce qu'il y a.
Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de règle. Et tu as même des avances qui ne sont pas recoupables. T'as des avances qui sont données par la maison de disques pour une sorte de salaire.
Comme si le mec était salarié.
Voilà, pour que l'artiste puisse travailler,
vivre.
Voilà, elle lance pas, plutôt, ne pas travailler plutôt, et aller en studio et enregistrer. Ça, c'est pas recoupable. Mais c'est-à-dire que c'est une sorte de salaire pour lui. Et ça, les artistes, ils aiment bien ça, parce qu'ils se disent, oh tiens, je vais toucher mon 20, 30 000, c'est pas recoupable. Et après, t'as le 100 000, 200 000, qui est une avance sur les royalties, qui est recoupée par différentes, quand on paye un clip, quand on paye une page de pub, tout ça.
Ouais. D'accord.
Ça aussi, ça, c'est du marketing, des avances marketing, oui. Voilà. En fait,
Ah, c'est bien.
C'est bien segmenté. C'est, ouais. C'est, ce qui est intéressant d'ailleurs.
C'est, mais c'est du coup, ces mecs-là, là, qui vivent comme ça, qui viennent de la rue, qui ont souvent pas d'avocats.
Eh ben, alors, je pense que eux, Dean,
oui, genre,
Dean
là, oui,
eux,
ouais,
eux
ouais.
Ils auront une belle armée d'avocats. Mais.
Oui, mais c'est le management.
Voilà.
C'est-à-dire que eux, ça se trouve, ils fistent aussi leurs artistes.
Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, certainement.
Ok,
certainement.
Bah, je comprends mieux comment les gens se faisaient niquer parce que j'arrivais pas à comprendre. Je me dis, mais attends, les mecs, ils parlent, c'est des trucs de gangsters. Ils vendent de la drogue. Donc, tu vois, ils parlent d'une vie de businessman, de hustler. Et ils sont tous systématiquement entubés par leur maison de disques et je ne comprenais pas.
Et oui. Et c'est
donc là, t'as des avances marketing, des avances sur les ventes du CD, voilà. Les trucs pas recoupables. Et okay.
C'est de toute façon, c'est pour ça qu'il y a toujours une armée d'avocats pour dealer les livres. Ça devenait de plus en plus complexe. Les contrats devenaient de plus en plus complexes. Les pages à s'aligner à chaque fois. Ils en avaient de plus en plus. Tu sais pas à quel niveau. Enfin, et il faut aussi remettre dans le contexte que c'est des enfants qui ont été, comme on disait, maltraités, qui n'avaient rien, tout ça. Et quand il y a cet argent qui arrive, ils font n'importe quoi avec.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils vont chez Jacob,
le bijoutier.
Voilà, le bijoutier.
Jacob
ils
Benson,
se prennent des montres, tu vois, il y a 2, 3, 4, 5 millions de dollars, tu vois. Ils s'achètent 15 voitures, ils s'achètent une maison pour être dans MTV Crib. Et forcément, au bout d'un moment,
Il
n'y a plus d'argent. Et donc, tu vas avoir quoi? Tu toques à la maison de disque et tu fais, excuse-moi, est-ce que je peux avoir une avance?
Ouais.
Et à partir de la maison de disque, tu te donnes une avance. Et après, toi, derrière, tu vivre.
Mais là, c'est limite un pacte faustien.
Ah oui, voilà. Et c'est exactement ça.
Ouais, d'accord.
Et souvent, ce n'est jamais bon, ça. Ça, c'est à la fin. Parce qu'en plus, on parle même pas
la banque gagne toujours.
Et on parle pas du fisc, hein. Qui
arrive aussi, parce que
qui demande sa partie, tu vois.
Mais justement, je me demande comment sur un truc comme ça où finalement il n'y a pas de, enfin c'est un contrat, mais il y a des sommes qui sont versées. Normalement, le fisc il se sert à chaque transaction.
Le fisc en fait se sert l'année d'après, tu vois.
Ouais, donc
tu touches l'argent, tu dépenses, t'as plus rien, donc t'es saigné.
Et là, le fisc arrive.
Et là, t'es dans un cercle vicieux classique. Ça, c'est vraiment un cercle vicieux classique. Les artistes, c'est toujours comme ça. Ils prennent une avance, ils la fument. Les impôts arrivent derrière, tac tac. Ils vont voir la maison de disque, ils refont une avance. Et donc ils sont dans une spirale de l'échec.
C'est du CTLM plus en
CTLM fait. Universal.
Ouais, ok.
Et autres, hein, Warner. Ça,
c'est super intéressant. Ça. Ouais. Bah, tu vois, je pense que nos auditeurs ont appris pas mal de trucs. Là. Moi aussi d'ailleurs. C'est toujours un plaisir cette émission. Hein. Alors attends, du coup, parce que on a digressé sur le point business. Il nous faudrait un jingle point business.
Un point CTLM.
Donc là, on est où?
Il se fait lâcher par Def Jam.
Il se fait lâcher par Def Jam. Les salauds.
Et c'est là que ça va te faire plaisir.
Un revirement du destin.
Voilà.
Chez qui il va?
Et bien, il retourne chez Columbia.
Le mec, c'est quand même, beau, il est pas rancunier. Hein. Voilà. Il retourne chez les mecs qui l'ont droppé la première fois. Ouais. Sachant que donc, les mecs qui l'ont droppé la première fois acceptent de le reprendre alors qu'il vient de se faire dropper par la maison du succès.
Voilà.
C'est-à-dire que chez Columbia, les DA, ils sont un peu chelous. Ouais.
Ou alors, ils se sont dit, GMX.
De toute façon, il va vendre au moins 1 million.
Voilà. En phase descendante, tu vois, tu lui dis, bon, tu réduis les budgets, tu fais un peu moins, toi, et puis tu peux toujours être à 1 million de disques. Normalement, t'es rentable si tu réduis les budgets. Donc, il va sortir son 6e album, donc les premiers chez Columbia, qui va s'appeler Year of the Dog Again, donc l'année du chien encore.
Ah, c'est vrai?
Oui.
On l'a celui-là?
Oui, on l'a, il est quelque part là. Il va sortir avec un DVD celui-ci d'ailleurs.
Year of the Dog Again.
Voilà, là, ici.
Oh, génial.
Oui.
Ah ouais.
Et avec ce titre. Titre qui n'apporte pas grand chose.
Les cuivres qui sont utilisés, j'ai l'impression de les avoir entendus.
Ouais, c'est toujours Suzy, hein, Suzy Beats.
Ouais, mais même sur d'autres.
Sur le Suzy Beats, t'as du désordre.
Ouais, peut-être. Et ok, ouais, donc voilà. C'est pas.
Non, c'est pas. Alors, l'album, franchement, j'ai dû l'écouter 2-3 fois, maximum. Ce titre va pas vraiment tourner. C'est le premier. D'ailleurs, c'est la seule fois où il va pas faire numéro 1. Il va faire numéro 2 au Billboard. Ce qui est quand même, déjà, faut remettre dans le contexte, hein. Si on reprend un Bleak ou
déjà
numéro 2 du Billboard, c'est incroyable.
Bleak, il faisait numéro 534, lui. Hein. C'était le nom de ses albums, limite. Tu vois, je veux dire.
Et donc, il veut faire, malgré ça, malgré donc, le fait que ce soit un album très très médiocre et des ventes assez faibles, il va faire numéro 2 du Billboard. Bon, ça montre quand même la fanbase du personnage.
Ah ouais. Mais alors, du coup, en termes de volume de vente, on est à quoi? Ah, voilà!
Ouais. Eh oui.
Là, 300 000.
Eh oui, là, on est sûr, ouais. Ça commence à piquer là.
Sachant qu'il n'était jamais tombé en dessous du million, à Columbia, bon choix.
Ouais. Ils l'ont viré quand ça marche et ils le reprennent quand ça marche plus.
c'est très bon. Ah, là, il y a un contrôleur de gestion là dans ses tableaux Excel et il a dû faire ah merde.
On l'a pas inversé.
Ah, il y a un trou.
Il fallait la prendre comme ça la feuille en fait. Ouais, donc ouais, c'est pas très glorieux.
Ouais.
Et ils vont sortir un Greatest Hit qui va plutôt pas mal marcher.
Sors un Greatest Hit.
Normalement, c'est la fin de la carrière.
On va se dire que, ouais.
Et ben oui, mais ils vont sortir un Greatest Hit dans juste après ça. Et qu'on peut trouver d'ailleurs dans toutes les Fnac encore. Maintenant, quand tu vas voir DMX dans les Fnac, c'est le Greatest Hit que tu trouves souvent.
Ouais.
C'est le, tu vois, qui est sorti à cette époque-là. Donc bon. Ben alors, on sent vraiment que les gens sont passés à autre chose. Quoi.
Mais alors, quand il a signé chez Columbia, c'est en tant que Rough Riders.
Il est toujours Rough Riders.
C'est toute la clique, c'est lui plus...
Non, c'est lui en tant qu'artiste, mais toujours avec le management Rough Riders. Rough Riders, en tant que compilation, en tant que label chez Interscope, se sont fait déjà dropper.
Ça n'existe plus. Ouais.
Ils vont sortir un volume 4 en indépendant ou chez je ne sais plus quel distributeur.
Ouais.
Et DMX, lui, va signer en tant qu'artiste chez Columbia, avec le management Rough Riders.
Okay.
Donc il est toujours Rough Riders. De toute façon, il sera Rough Riders jusqu'à la fin.
D'accord.
Donc voilà.
Ils ont sorti un volume 4 quand même.
Ils ont sorti un volume 4, oui. Ils ont même sorti un volume 5 qui s'appelle Rough Riders Past, Present and Future. C'est le classique.
Ok. Putain, c'est bien parce que moi j'étais resté sur Thug Life volume 1 et on n'a jamais eu d'autres.
Ouais.
Donc là, avoir des Ride or Die volume 1, 2, 3, 4, 5,
c'est
pas mal.
Alors, donc là, comme on l'a expliqué, c'est DMX, là c'est la fin. Les soucis s'accumulent. Surtout judiciaire. Au niveau judiciaire, on parlait justement d'argent à recouper, tout ça. Il va y avoir un gros problème, c'est avec tout ce qui est le Child Support Obligation.
Ah, les pensions alimentaires.
Les pensions alimentaires.
Ouais.
Parce qu'officiellement, il va déclarer officiellement 12 enfants, DMX. Donc un vrai chien.
C'est pas mal. C'est moins qu'Old Dirty Bastard de Wu-Tang. Et c'est 13 gosses, ou 14, ou 17. Mais c'est pas mal quand même.
Donc c'est pas mal, surtout quand il faut payer des pensions alimentaires. Et donc, il faut imaginer le chiffre des pensions alimentaires.
Tu te fais matraquer. Ah oui.
Tu vois. Donc ça va le ruiner complètement. Ça va vraiment le ruiner complètement. Et en plus, il va tomber dans un système où il ne peut plus payer ses obligations. Donc, il va tomber dans une spirale. Dans une spirale, il va faire banqueroute. Il va faire banqueroute en 2013. En 2013, il va faire banqueroute. Après avoir vendu.
Le mec, il a vendu
30, 40, 50 millions d'albums. Il fait banqueroute en 2013. C'est-à-dire qu'il se retrouve à plat.
Le système américain, c'est une broyeuse.
Ouais. Ah oui, complètement.
Surtout si t'es noir, j'ai l'impression.
Eh oui, encore plus.
Après, personne l'a forcé à faire 12 gosses, hein, mais bon, moi je ferais quand même des tests de paternité hein, quand il
commence. Ah non, mais vraiment, s'il les a reconnus,
c'est
qu'il est...
Ouais, mais peut-être qu'il est naïf.
Ah oui, peut-être.
Ah, c'est le tien. Ah ouais. Ok. Ok, ouais. D'accord.
Mais il était connu pour pas mal de choses.
Ah bah oui, j'imagine bien, oui. Ouais. C'est un chien après.
Voilà. Mais il va quand même sortir un septième album et dernier album que je considère moi comme septième et dernier album, c'est un album qui s'appelait Indisputed et avec ce titre. Oh shit. What the fuck? Are you serious? Hit the motherfucking floor, baby. Come on. Let's go. Bon, je pense qu'on peut.
I Don't Dance, c'est ça le titre.
I Don't Dance avec Machine Gun Kelly.
Ah bah oui, MGK qui s'est embrouillé, lui, il est en beef avec Eminem, il me semble.
Il a pas mal biffé. Et pas grand chose en plus, tu vois. Et donc voilà, là, ça. Avec ce son, le son, plus la qualité sonore, même lui, la façon de rapper, tout ça.
Il y a rien qui va là.
Il y a rien qui va. Là, on est vraiment sur de la fin de carrière. C'est triste, tu vois, c'est une fin triste, enfin.
C'est quoi ça? C'est 2012?
Ça, c'est septembre 2012, oui. Okay. Juste avant la banqueroute en 2013. Alors, il va faire 19e au Billboard.
19e. De pour lui, premier à deuxième à 19e. Ouais. C'est toujours mieux que Bleak.
Oui, c'est toujours.
Mais c'est pas.
Mais il va vendre 100 000.
100 000. Ça, par contre.
Ouais, par contre, c'est pas bon, ça. Ouais.
Là, 100 000 en ouais. étant en major.
Ouais. Donc là, c'est vraiment pas bon, là. Ouais, j'avoue, ah, la, ah, Colombia, bah là,
la Colombia, là. Et... ils doivent commencer à transpirer, là, sur leur tableau Excel, là. Et alors, il se fait drop ou pas, non?
Ouais, à partir de là, oui, à partir de là, je pense qu'il fait drop, et même lui, il va se drop lui-même, hein. C'est-à-dire qu'il va disparaître, il va faire des shows télé-réalité, comme, moi, je me rappelle des interviews qu'il va donner où, on dirait SDF, il est complètement, tu sais, crackhead, complètement perdu, il est vraiment là, à ce moment-là, même moi, je considérais qu'il était même perdu pour, physiquement, quoi.
Ouais,
perdu,
c'est genre, ça, on le récupère.
Voilà, voilà, je pensais qu'on allait entendre une news un jour, des mecs, c'est mort, tu sais, voilà, quoi. Ouais, mais il y a même des histoires où ils l'ont retrouvé en overdose dans sa voiture. On a vraiment des histoires, des histoires très, 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 très glauques. Très glauques. Et il va retourner en prison, donc il va faire les allers-retours. Et en janvier, donc 2019 de cette année, il annonce qu'il travaille sur un 8e album.
Donc, mais voilà, attends, mais il n'est pas parti en tôle cette année?
Si, mais sorti là en janvier.
Ah, il est sorti de tôle cette année.
Il est sorti cette année.
J'ai une photo là où il ressemble un peu à Bill Cosby là.
Il sort cette année et donc il déclare travailler sur un huitième album. Et la chance qu'il a, tu vois.
Putain, huitième album, le mec a 50 ans.
Oui, c'est ça. Et alors la chance qu'il a, c'est que le premier album, donc il y a un classique qui est It's Dark and Hell is Hot.
Ouais.
En fait, c'est 20 ans. Et aux États-Unis, aux États-Unis, ils aiment bien célébrer ça, tu vois.
On se rappelle de Illmatic,
exactement,
qui a célébré les 20 ans aussi.
Et donc ça lui donne une petite, voilà, il fait quelques apparitions télé, en fait. Quelques concerts, tu vois. Et donc voilà où il en est d'Imix aujourd'hui. Il déclare travailler sur un 8e album, un peu fatigué, mais il est toujours là, toujours présent.
Bah, de toute façon, il doit payer les pensions alimentaires de ses 114 gosses, là. Ah, voilà. DMX libéré de prison vendredi. Ah ouais, 24 janvier. Le rappeur avait été sentencé au mois de mars 2018, donc d'un an de prison pour taxe évasion.
Ah,
et comme Wesley Snipes, comme tous ces mecs-là, en fait, hein, et c'est con à dire, mais tous ces artistes noirs américains qui se font rattraper par l'IRS, qui est donc le fisc américain, à un moment donné, si ta carrière, elle n'est pas constamment en expansion, à un moment donné, le fisc, il te matraque la gueule.
Et oui, parce que c'est du N plus 1. C'est-à-dire que, tu sais, ils viennent te prendre l'argent de ce que tu as gagné l'année d'avant.
Donc,
si t'as pas un comptable ou si même toi, t'es pas un petit peu, je vais mettre
malin,
de côté,
quoi. Juste, voilà.
Tu te fais assassiner. Puis là-bas, c'est pas comme en France où tu fais, même si ça a changé à l'époque, fraude fiscale, tu payes une amende, tu vois.
Ouais.
Aux États-Unis, c'est pénal, la fraude fiscale. Donc, tu vas en prison.
Ouais, tu vois.
C'est là, t'as fraudé 200 euros, tu peux faire 10 jours de prison, quoi, tu vois. C'est pénal, la fraude fiscale aux États-Unis. C'est, voilà. Donc, ce qui est déjà.
Pas. Hein.
Ouais. L'IRS, il rigole pas, ça c'est clair. Et donc voilà qu'on arrive à la fin de. Enfin, on arrive déjà à la fin de notre.
Donc là, ça se termine quand même avec DMX Rémi sans famille, là. Je suis un peu triste.
Ouais,
tu vois, je voulais un truc, tu sais, joli. Ouais.
Bah écoute, ce qui est joli, c'est que moi j'ai vu une interview de GQ, a fait une interview ce mois-ci.
Ouais.
Donc pour aller le voir, où ils en parlent justement pour les 20 ans de It's Dark and Hell is Hot. Il a l'air plutôt en forme, hein, un peu grisonnant tout ça, mais il raconte un peu les titres, comment il a fait pour les enregistrer. Par exemple, il raconte que le refrain de Anthem, au début, le titre, il le trouvait pas extraordinaire, qu'il a fait ça un peu obligé.
Mais ça, c'est bien, moi j'adore les histoires comme ça, on appelle ça des post-mortems, enfin,
voilà.
Ils reviennent un peu sur les trucs.
Donc, vous pouvez le voir sur le site de GQ américain, donc il y a une interview de DMX, et puis voilà, puis il dit qu'il va travailler sur un 8e album, et puis on lui souhaite bonne chance, hein, et bon courage. Hein.
Franchement, enfin, du coup, et c'est quand même la magie de cette émission, c'est qu'on parle d'artistes, on fait ok, c'est des rappeurs, tu vois. Et en fait, quand tu digues le truc, le mec, juste, il a vendu 50 millions d'albums.
Ouais.
Ici, personne n'est au courant.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est...
Ouais.
En fait, j'aimerais bien avoir les chiffres français pour voir si, ok, l'artiste est connu, il cartonne aux États-Unis, mais est-ce que c'est avec la même magnitude? Évidemment, à l'échelle du marché français, est-ce que c'est avec la même magnitude chez nous? C'est-à-dire, le mec, il est premier au Billboard là-bas, est-ce qu'il est premier chez nous au top 50? J'ai de gros doutes.
Non, il y a les seuls.
Je pense jamais
avoir vu
de rappeur américain premier au top 50, à part peut-être un 50 Cent avec.
Peut-être 50
avec
Cent.
Avec In The Club, mais tu vois, enfin.
Peut-être Jay-Z, peut-être sur un fait encore, je pense pas.
Hard Knock Life.
Ouais,
Jay-Z, Hard Knock Life, ils l'ont bien matraqué. Mais du coup, savoir si finalement c'est quand même, le succès de l'artiste dans son pays d'origine est quand même reflété chez nous. Parce que je suis pas sûr. Et c'est fou, parce que du coup, on était passé à côté de T.I. ici.
C'est très culturel aussi. Est-ce qu'en France, on se reconnaît
Ouais, mais tu dis, le mec, ils ont 50 millions d'albums. Ouais.
Oui, mais comme on l'a vu, il y a aussi une image. C'est une histoire à raconter, DMX. En France, à part Skyrock qui va jouer le single, DMX, c'est genre ces trois lettres, ils savent, ouais. Ils ont entendu parler d'un chien, enfin d'un homme, ouais, ouais, ouais. Ça reste, il est pas, il fait pas les plateaux télé, il fait, de toute façon, ça coûterait beaucoup trop cher.
Oui.
Lui, s'il vient, il vient à 20, première classe, ouais, 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 ça coûte une fortune. Moi, je sais, pour, à l'époque, avec les DA de chez Universal, il me racontait que quand il devait faire venir les artistes américains, ils étaient obligés de prendre sur les artistes français, les budgets sur les artistes français.
Les
tellement, tu vois, c'était, ils mettaient 200 000 pour faire venir un artiste américain,
ouais.
Et 200 000, tu fais un album d'un artiste français, tu vois.
Ouais.
Et ils étaient, ça les tuait, les DA, tu vois, parce qu'ils avaient des obligations d'Universal aux États-Unis de faire venir leur artiste dans une tournée.
Ah ouais?
Et ça les tuait complètement. Ça tuait les budgets, c'était,
ça, c'est fou, parce que tu te dis toujours que c'est un monde où quand même il y avait de l'oseille. Bon, là, maintenant, on sait que ça a été la crise, pour l'industrie du disque avec le streaming et tout. Mais tu dis, même à la grande époque, les mecs, il y avait des histoires de budget.
Ça coûtait beaucoup trop cher, parce que dans un marché local comme la France, c'est, t'as eu 50 000 un disque d'or en France, hein. Donc
50 000, ouais, mais c'est parce qu'on a, on a baissé encore.
Ouais, on a baissé, mais c'était 100 000.
Avant, c'était 100 000.
100 000, ouais. Ce qui reste quand même assez faible, tu vois, 100 000.
Non, mais 100 000 disques d'or en France, 500 000 aux États-Unis, sachant que le volume de population, ils sont bien 5 fois plus nombreux que nous.
Ouais, mais c'est 5 fois sur des budgets, c'est, ouais. C'est, tu vois. Puis, sans compter tout ce qui va autour, c'est-à-dire les droits de télé, les droits d'auteur, les droits, tu sais, les concerts,
ouais.
Tout l'argent. Souvent, les artistes sont signés maintenant en 360, c'est-à-dire que la maison de disque est pensée sur les concerts. Et aux États-Unis, tu fais, tu peux faire une tu fais une tournée des stades,
ouais.
Ça, c'est énorme, quoi. Tu peux faire, tu sais, l'argent, il est avec les Live Nation, c'est là qu'il y a pas mal de Live Nation et tout ça. C'est, ça génère tellement d'argent qu'en France, on ne peut pas.
Oui, tu peux pas,
développer ça. Ouais, c'est-à-dire que comme, quand tu fais pas de marketing, tu n'es pas invité au plateau télé, personne ne connaît, donc forcément, ça reste très,
c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont les radios locales, ils ont les radios universitaires, ils ont les concerts, les tournées des universités, etc.
Il n'y a pas un monopole d'une radio, quoi, aux États-Unis. Non, c'est que de.
T'as personne en France qui te dit, tiens, Oxmo Puccino sera à Sancier Bonton la semaine prochaine, et puis il ira à l'EM Grenoble, puis. Puis à HEC Lyon, ouais, c'est vrai. Mais il y a peut-être un truc à développer, du coup, hein, pour que, en fait, les artistes français puissent aussi se retrouver sur des circuits secondaires.
Ouais. Certainement, bien sûr. Mais de toute façon, tout ce qui est rock indé, tout ça, ils l'ont très bien compris. Ils ont leur propre circuit. Ils tournent dans les bars, ils tournent beaucoup plus facilement. C'est dans le hip-hop. Et qu'on n'a pas réussi à regrouper les forces de chacun et puis de faire des tournées, des vraies tournées. Il y a eu des tourneurs, hein, ça se fait, mais c'est compliqué. Ouais. On a l'impression qu'en France, dès que c'est hip-hop, c'est compliqué.
Ouais, c'est vrai.
Alors là, aujourd'hui, en 2018-2019, on redécouvre grâce au streaming que les rappeurs, ça gagne de l'argent.
Ouais.
Alors que la maison disque peut gagner de l'argent avec les rappeurs. Donc ils en signent plein, blablabla. Parce que le stream pète les scores. C'est-à-dire que sur Spotify, tout ça, ceux qui font des vrais chiffres, c'est les rappeurs.
Spotify en France, c'est les rappeurs qui vont.
Ouais. Donc, alors jusqu'où ça va aller, tu vois, ça met. Au niveau des tournées, tout ça, les gros artistes ne tournent pas tant que ça, hein, à part Sopra. À part,
Bah sinon, après, ils font des festivals. Quoi.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, tu peux faire une date tous les jours et avec 20 000 personnes à chaque fois. Quoi.
Ouais.
C'est,
putain, il y a peut-être un coup à jouer. Bon, en tout cas, c'était super instructif, très intéressant, hein, de revenir sur la carrière de ce sur Ja Rule,
voilà.
Hein, qui est DMX. Du coup avant de finir, on va quand même prendre. Ton morceau bref.
Alors mon premier morceau bref, on l'a pas joué. C'est donc un morceau qui est forcément sur le premier album, qui s'appelle Damien. Def Jam. Rough Riders. My nigga TP, creep with me. Why is it every move I make turns out to be a bad one? Where's my guardian angel? Need one? Wish I had one. I'm right here, shorty, and I'ma hold you down. I'm trying to fuck all these bitches, I'ma show you how. Okay. But who? Name D like you, but my friends call me Damien, and I'ma put you into something. Mais voilà, c'est
oh, il a un dialogue.
Exactement. Tu vois, c'est ça, et c'est, je trouve, c'est.
Il se parle à lui-même.
Voilà. Il parle à son
ange gardien,
ou son alter ego démoniaque. Tu vois, Damien qui le pousse à faire toutes les conneries. Et ça, c'est, tu vois, c'est un morceau qui est super bien construit.
Dark.
Ouais, c'est un super morceau à écouter. Les paroles sont super bien écrites. Et donc le Damien, donc le nom du diable, va le pousser à faire plein de.
Oui, en plus Damien, l'enfant 666.
Exactement.
C'est l'imagerie métal, rock. Voilà. Ouais,
et ça correspond tellement à lui. C'est sur le premier album, ça, tu vois.
Ouais.
C'est après il va le décliner Damien 1, Damien 2, Damien 3.
Ah bah oui, bah comme les Rough Riders, voilà. Ride or Die.
Voilà. Et donc voilà, c'est mon morceau qui, voilà, morceau coup de cœur.
Ah, c'est pas mal. Bon, la prod, je la trouve un peu synthétique, oui. mais c'est bien. Enfin, c'est discret. Mmh. Ben moi, pour faire vraiment honneur à l'artiste, je prendrai Party Up. Tu le retrouves, Gis. Et voilà. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here. j'ai vraiment l'impression d'entendre. Je crois que c'est le son d'un jeu Amiga de Psygnosis ou de Team 17 qui s'appelait Killing Game Show. J'ai vraiment l'impression d'être dans ce truc-là. Donc, pour les mecs qui ont joué à ce jeu-là sur Amiga, allez l'écouter sur YouTube, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà, je trouve ça à la fois nul et génial.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est toute la dualité de Swiss Beats aussi, tu vois. C'est ouais. Le génie.
Jusqu'à ce que ça fonctionne
voilà.
Plus.
Ouais, c'est ça.
Mais pourtant, enfin, Swiss Beats, on finira là-dessus. Swiss Beats, il est bien, lui.
Ah, il est bien, il est super bien.
Il a réussi à transcender son statut de producteur des Rough Riders.
Mais complètement. Et puis, voilà, il va faire des tubes. Sur Beyoncé, à chaque fois, il y a des tubes de Swiss Beats. Personne ne connaît que c'est produit par Swiss Beats, mais c'est produit par Swiss Beats.
Ouais.
Tous les.
Enfin,
les
c'est pas mis en avant, mais.
Tout ça, c'est produit par Swiss Beats, quoi.
All My Single All My Single Ladies de Beyoncé, c'est Swiss Beats.
Ouais.
Il est refait, lui.
Ah oui, bien sûr, mais il continue comme ça. Puis il est super ami avec Jay-Z, puis donc sa femme est Alicia Keys, tout ça.
Ouais. Donc lui, il a réussi en fait à step up, à sortir de.
Il est au-dessus de tout ça maintenant.
Ouais. Ah putain, bien joué, Swiss Beats. Ouais. Bien joué. On envoie un petit jingle.
Welcome to the show. Fix and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop. DJ
Tarin the. Oh yeah! Et voilà qui marque la fin de ce troisième numéro de Six and Daz, donc sur la carrière de DMX,
voilà.
Darkman X, l'homme chien. Je ne saurais que vous enjoindre à raquer, bande de rats, pour que nous aussi on puisse s'acheter des Lamborghini avec les avances de qualité. Après c'est Sam qui viendra chercher la thune. Sam et Fibre Tigre, ils sonneront à la porte et ils nous obligeront à travailler à la chaîne pour rembourser les avances. On attend vos commentaires, vos critiques, vos questions même. Sur Twitter et sur le forum de qualité, il y aura évidemment un post pour cet épisode. On a eu justement des gens qui nous ont contactés après l'épisode TI en nous disant vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça. Et c'est super. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos infos, vos tips, voire vos démos. Et là, je pense notamment à Mog Ismin sur Twitter, dont on ne sait toujours pas ce qu'il fait, mais il a toujours des putains de leaks de studio.
Un petit big up parce que franchement respect
il a sorti des titres, bon morceau. Continuez à nous abreuver avec ça et puis on le prendra un jour dans l'émission en invité mystère et on se quitte là-dessus. Je vous souhaite à tous une agréable journée, agréable soirée, un agréable trajet et nous on se retrouve dans deux semaines.
Allez, ciao,
bye bye. But you still my man, I ain't gon' say nothing. That's your weed, go ahead, smoke it. What? Go ahead, drink it. Word? Go ahead and fuck shorty, you know I can keep a secret. Right. I'm about to have you driving, probably it bends. But we gotta stay friends, blood out, blood in. Sounds good to me, fuck it, what I got to lose? Nothing I can think of, any nigga would choose. Got me pushing the whip, taking trips across seas. Pockets stay laced, nigga, I flush cheese. For that nigga, I will bleed, give him my right hand. Now that I think about it, yo, that's my man. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.